I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si on peut continuer à passer des bons moments, c'est grâce à MyCanal, le site et l'application de Canal+. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Je vous souhaite un bon moment. Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure où vous nous regardez, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un bon moment, je suis aujourd'hui accompagné de mon fidèle, parce qu'il est un peu le disciple de ma religion, qui est la religion de la bienveillance et du bonheur, mesdames et messieurs.
Moi, Bruno Muschia, ça ne l'avoue pas du tout.
Bruno Muschia, j'ai envie de te donner une nouvelle image, j'ai envie que les gens se disent...
Mais je suis très bienveillant.
C'est vrai que tu es bienveillant.
Je suis très très bienveillant.
Et aujourd'hui on reçoit Thomas Wiesel, l'humoriste qui fascine les humoristes, mesdames et messieurs, Thomas Wiesel.
C'est vrai qu'il me fascine en tant qu'humoriste, moi je suis fasciné.
C'est vrai,
non,
tu
toi,
me
toi,
fascines.
Ce qui te fascine, c'est plutôt au niveau personnel, non?
Tout me fascine.
Non, c'est vrai. Beaucoup de gens ont parlé de toi pendant les un bon moment. Je ne sais pas si tu as grillé dans les
autres. On m'a souvent dit, ouais. On m'a souvent envoyé, genre, ah, il parle de toi.
Puis bah ouais.
Je venais quand même vérifier que c'était en bien.
Ouais. Jamais en mal.
L'était. Souvent, ça l'était. Mais c'est pour ça que je ne sais pas ce que je vais faire dans cette émission, parce que moi, je parle souvent en mal des gens.
Mais comme tu parles souvent bien de toi et que c'est un peu la... tout le monde parle bien de toi dans l'émission, c'est
dans
autant
ce
qu'il le fasse lui-même.
Dans ce moule, ça rentre. Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu trouves génial chez Thomas Wiesel?
Non, moi, je suis assez critique avec moi-même, mais c'est plaisant de voir que les gens...
T'aimes bien ton style ou pas? Est-ce que t'as un stade où tu te dis, là, franchement, je suis content, je suis devenu humoriste et j'aime mon style?
Ouais, ça arrive, mais ça arrive peut-être moins souvent que l'inverse. Mais j'ai atteint un stade où, quand je regarde les trucs d'il y a un an, je les déteste pas autant que quand je faisais ça...
Il y a cinq ans, ouais.
Je sens que ma vitesse de détestation de mes vieux trucs est... C'est considérablement ralenti et ça, je pense, que c'est bon signe.
Mais est-ce qu'il y a toujours en toi un rappeur déçu de ne pas être rappeur ou...
Ouais, oui, et puis un basketteur déçu de ne pas être basketteur. Et... Non, il y a des rêves brisés en moi, oui, bien sûr. Bien sûr, humoriste, c'était pas le plan A.
C'est le plan 49,
toi. Ouais, je pense qu'il y a eu quelques itérations avant ça. Non, mais honnêtement, la vie est cool. À part en 2020, la vie d'humoriste est assez cool.
Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up là? 7 ans?
9.
9 ans? T'as commencé en 2012, du coup, 2011?
2011, ouais. Mais ouais. En 2011, j'ai fait un spectacle.
Carrément, t'as commencé par un spectacle?
Non, un spectacle. J'ai fait une scène. Parce qu'en Suisse, c'était quand même un peu plus difficile de trouver des scènes. Mais du coup...
T'es suisse, voilà, pour le rappeler.
Oui, pardon. Suisse, ouais. J'habite en Suisse. Et du coup, j'ai fait mon premier spectacle octobre 2011 et je crois mon deuxième en janvier 2012. Puis tout 2012, j'ai fait faire 9 scènes. Donc, j'ai commencé il y a longtemps, mais au début, c'était calme. Là.
Et là, t'as enfin trouvé ton style. Tu dis après 9 ans quand même. Parce que les gens, je sais qu'il y a plein de gens qui commencent, qui disent « Ouais, ça, je vais faire une capta, je vais me mettre sur Internet. Les gens vont voir que je suis marrant. » Ils ont un plan de carrière digital. Et en fait, ils se rendent pas compte que le style dans le stand-up, c'est...
La personnalité, quoi, le style.
Ouais, le effacer tous les trucs qui font que c'est pas toi, ça met des années. Et, ouais. Et valoriser les trucs qui font que c'est toi et de te trouver toi, de dire ah mais en fait c'est moi ça et quand je suis sur scène et je fais ça, c'est hyper agréable en fait, j'aime être qui je suis là maintenant. Puis après 2 ans après tu dis mais j'avais complètement tort,
oui,
c'est
ça.
Pas ça du tout que je voulais dire.
Moi je pense que je le suis plus que ce que je l'étais au début, surtout les premiers mois ça bouge beaucoup. Si je revois les tout premiers trucs que j'ai fait sur scène, heureusement il y a peu de preuves vidéo qui existent, mais il y en a. Je vois que c'est pas du tout moi, effectivement, c'est un peu mes influences que j'essaye de...
Il y avait des blackface, tu faisais l'accent québécois.
Beaucoup d'accent
c'est vrai, ouais. L'Africain, le personnage de l'Africain que tu faisais.
Oui, c'est mon
Congolais,
personnage phare, mon personnage
le Congolais.
Le Z. Non, heureusement, comme j'ai eu peu de talent de comédien dès le début, j'ai pas fait des trucs embarrassants qui vont ressortir, mais oui, des quelques accents un tout petit peu, quelques jeux de mots un tout petit peu.
T'as eu ça?
Ouais.
Bon, on a tous eu un jeu de mots. Moi d'ailleurs.
Les Américains viennent de sortir un très très gros blockbuster, Sherlock Holmes. Nous, on va voir le nôtre, Francis Holmes. Oh non. Si. T'sais, avec France, avec son pote, avec Watson, qui fait « Mais enfin, Francis, où avez-vous trouvé tous ces enfants ?» À l'école élémentaire, mon cher Watson. Ah, ça va.
Ce qui est un jeu de mots.
J'adore
mais
ce blague.
C'est un jeu de mots.
Non, mais il est
un
bon
jeu de mots.
C'est un
C'est un bon jeu de mots.
C'est un bon jeu de mots.
Parce qu'en plus, il est double.
Oui.
Donc tu dis, aha, ça devient...
un sens.
J'utilise deux fois deux effets. Sur Francis Holmes, on fait ouais, et l'école élémentaire, tu fais... Oh.
Ouais.
Mais ça, ça va, je trouve. C'est plus des doubles sens que des jeux de mots. Moi, pour moi, le jeu de mots, c'est vraiment le calembour.
Généralement, on montre un doigt comme ça. Fait.
C'est genre, ah deux ouais, doigts. Bien joué. Enfin, c'est quand c'est que la forme et pas de fond
oui,
du tout.
C'est juste des mots qui se ressemblent.
Ouais, ça me plaît moins. Enfin, je comprends moins. L'école Raymond Devos, Stéphane de Groot, j'ai jamais trop adhéré moi, mais il y a des gens qui s'appelaient.
C'est Raymond Devos, c'est beaucoup de poésie. Poésie de Raymond Devos qui est belle. Quand moi, je suis allé voir François Morel sur scène jouer Raymond Devos, on s'en fout du jeu de mots. C'est tout ce que ça génère comme beauté, en fait, chez toi, comme émotion. C'est ça que ça génère une émotion.
Non, c'est vrai que Raymond Devos, je pars d'un jeu de mots et c'est comme une contrainte poétique. Et après, derrière, il y a un truc poétique qui se crée à partir de mots qui se ressemblent et qui s'assemblent, quoi.
Et puis ce personnage en costume bleu qui fait des numéros de musical.
Qui sue comme un porc.
De musical. Qui fait pas que des jeux de mots. Il y avait des jeux de mots, mais déjà c'était très bien écrit. Mais surtout, il avait plein d'autres numéros. Il faisait des trucs, des trucs visuels, il faisait plein de choses dans ses spectacles. Nous, on n'a retenu que les jeux de mots, mais il faisait pas que ça. C'était vraiment là où en télé, il ramenait ça parce que c'est ce qui marchait le mieux. Mais c'est toute une poésie autour de Raymond Devos. Puis il était vraiment avec son costume. Tu vois, ce personnage un peu comme ça. Dans chaque bon moment, il y a une imitation de Raymond Devos à un moment donné.
Un bout de bois.
C'est beaucoup de respiration, visiblement, l'imitation de Raymond Devos. Moi, je me souviens de ses lèvres. Je sens qu'il avait des lèvres assez impressionnantes. Voilà, c'est ce qui m'a marqué en tant qu'enfant.
J'ai une question à te poser qui me.
Je confonds avec. Non,
j'allais dire un truc raciste.
Ah non, pas raciste.
Ah non,
j'étais sur une actrice porno, mais j'ai pas.
Non, je suis allé voir dans Google Trend. J'ai tapé Thomas Wiesel Google Trend. Tu connais Google Trend?
C'est pour voir les incidences de combien de personnes m'ont cherché en fonction de la date.
Exactement. Ouais. Et donc.
J'ai jamais fait ça.
C'est vrai?
Ouais, la preuve que je suis pas si narcissique que ça, finalement.
Tu googlises ou pas des fois?
Bah, j'ai une Google Alert pour voir quand on publie un article méchant sur
c'est
moi.
C'est compliqué
mais...
sur Google Trend.
C'est marqué Thomas Wiesel, les mots-clés, c'est Thomas Wiesel, etc.
Fraude.
Nul, fraude. Et on a, depuis 2004...
2004 ?
Ouais, depuis 2004. Non, c'est parce que c'est depuis l'existence de Google.
Ah, oui, je me disais.
Depuis qu'ils font les trends.
Pourquoi on a une pointe en janvier 2020 ? On a une pointe, ça n'a jamais été autant recherché Thomas Wiesel en janvier 2020.
En janvier de cette année ?
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que t'es passé en...
T'as eu des recherches... En janvier, en général, c'est à la suite d'un Montreux, non ? Ou d'un...
Mars 2017. Ouais. Janvier 2018.
Mais je pense en fonction de mes vidéos qui ont bien fonctionné.
Mars 2019. Et surtout, le gros pic, c'est-à-dire que t'as jamais fait autant de recherches, t'as quasiment quadruplé toutes tes recherches actuelles, c'est qu'est-ce qui s'est passé donc en janvier 2020 ?
Je pense que vous avez sorti un épisode d'un bon moment où vous parliez de moi.
On est des putains de faiseurs de tendance, mec.
Mais qui est ce gars ?
Écoute, je devrais savoir, mais non, je sais pas. Peut-être une vidéo qui a bien fonctionné. Il
n'y a pas eu un Montreux qui est sorti ou un.
Ouais, mais Montreux, ça fait pas tant de.
Ou t'as participé.
Un gala qui est passé sur YouTube, peut-être, non ?
Ou t'as participé à quelque chose chez quelqu'un ? Bah, souvent, c'est ça. C'est fait, bah oui, mais c'est le jour où j'ai dit bonjour, McFly et Carlito. Mais et toute ma vie a changé. Tu vois.
Je sais pas.
C'était pas le moment où t'es allé sur la place de la République avec ta croix gammée sur le torse.
c'est avril 2014.
Ah oui, bah oui.
Non, mais des fois, c'est des vidéos qui commencent à buzzer alors que c'est pas au moment où je les ai postées. Mais les gros buzz récents que j'ai eu d'Internet, c'est j'ai une vidéo face à l'ancien PDG de Nestlé, mais ça, c'était.
Ah oui, je me rappelle ça.
2019.
Ouais, c'était fou ça. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-nous ce qui s'est passé.
C'était une conférence, je suis souvent invité en Suisse dans les conférences.
Tu fais beaucoup de ce qu'on appelle d'entreprise, de corpo.
Ouais, de singes qui dansent quand il y a des trucs chiants pour avoir quand même un moment un peu sympa.
De lucidité. Je fais beaucoup de singes qui dansent.
C'est un singe qui danse devant des employés.
C'est ça,
C'est-à-dire que, alors, pour expliquer un peu aux gens comment ça marche, c'est-à-dire que quand t'es humoriste, voilà, il y a les gens, les spectacles, il y a le côté un peu public, tout le monde peut venir voir un spectacle. Mais il y a des sociétés privées, et il y en a beaucoup en Suisse, qui commande un humoriste, une sorte de voilà de
bouffon du roi.
Ouais, c'est vraiment ça. Non, mais tu viens les
roaster, c'est-à-dire tu viens les humilier un peu.
Moi, c'est ce que je fais moi. Ouais. Alors la plupart
c'est
gens,
pas obligé. Il y en a, ils font des jeux de mots. S'ils avaient invité Raymond Devos.
Voilà.
Oui, non, mais quand ils t'invitent toi, Thomas, c'est pour.
Ils s'attendent pas à ça. Enfin, au début, ils savaient pas trop. Maintenant, j'espère qu'ils savent. J'ai un peu moins de contraintes d'ailleurs, quand même. Mais oui, parce qu'en Suisse, en fait, on est un peu forcé d'être un poil plus polyvalent entre guillemets, parce que comme le réservoir de population est beaucoup plus faible, en plus on est multilingue, donc nous on joue que du côté francophone qui est 2 millions d'habitants, donc c'est vraiment petit. Donc nos spectacles, ça représente pas la majorité de notre revenu et on est obligé d'un peu se diversifier puis d'aller dans les boîtes. Mais des fois c'est des trucs genre le Noël d'un club de foot. Puis ça, tu fais ton spectacle, tu fais des trucs sur le foot, machin. Et parfois, c'est des trucs un peu plus pointus. Beaucoup de conférences sur l'innovation, sur l'économie, machin, où ils ont 5-6 conférenciers sérieux. Et à un moment donné, un humoriste pour un peu détendre l'atmosphère. Et une fois, c'était organisé par un journal suisse, Le Temps, qui avait invité plein de gens pour parler des PME. Et une des personnes qu'ils avaient invité, c'est Peter Brabeck, qui est un des directeurs historiques de Nestlé, qui est au board de Nestlé encore, qui est un monsieur d'un certain âge maintenant.
Nestlé, un groupe international qui gagne beaucoup d'argent, donc des gens intouchables.
Une multinationale qui est une des plus grosses boîtes du monde et qui détruit pas mal de choses dans l'agroalimentaire. Enfin, les altermondialistes et les gens qui pensent comme moi n'aiment pas trop cette entreprise. Mais lui, il avait eu un gros scandale en parlant de l'eau, parce que Nestlé a beaucoup d'eau en bouteille. Et ça a fait scandale une fois parce qu'ils avaient réussi à, je sais pas, détourner des sources naturelles pour en faire une de leurs eaux. Et il avait dit que l'eau n'était pas un bien commun.
Oui. Ah oui, c'est un scandale.
Il y avait un scandale sur cette citation-là. Donc lui, il était connu. Il a fait 40 ans, 50 ans de carrière dans le business. Mais ce qui est resté, c'était ça de lui. Puis je l'avais un peu vanné là-dessus. J'ai demandé s'il voulait une bouteille d'eau. Enfin, j'avais fait quelques vannes sur Nestlé et sur lui en particulier.
On va avoir Peter Brabeck, le président émérite de Nestlé Business Angel. C'est sûr, moi, quand on me dit ange, premier truc auquel je pense, c'est Peter Brabeck, membre des conseils d'administration de Salt, Roche, Crédit Suisse, L'Oréal et ExxonMobil. Les méchants dans James Bond sont jaloux du CV de Peter Brabeck. Ils l'ont mis après moi pour pas que je parle de lui. Oups. Non, il s'était rendu célèbre avec une citation sur l'eau potable qu'on a tous entendue, comme quoi c'était pas un droit humain, mais qu'elle devait avoir une valeur marchande, plus ou moins. Bah, j'espère que pendant son discours, il aura la gorge sèche, comme ça je peux lui amener une bouteille d'eau et la facture qui va avec.
Et ça, c'était une des vidéos qui avait bien marché. Mais ça, c'est 2019. Donc, ton pic en janvier 2020, je sais pas.
Tu sais pas ce que c'est ?
Bah, ma sextape, mais elle a pas tant de vues que ça. Donc, je pense que c'est autre chose.
Ça se trouve, il y a quelqu'un qui l'a screamé et qui l'a mis ailleurs sur un autre compte.
Ouais,
tu sais
c'est
pas.
Ça, je t'ai fait avoir. Tu peux voler toute la monétisation de ta sextape et partir.
Mais ça arrive des fois. Il y avait un mec, il avait réussi à s'ajouter comme administrateur de ma page et à mettre des pubs sur mes vidéos et à récolter lui l'argent. Et une fois, j'ai eu quelqu'un qui commente une de mes vidéos, genre. C'est un peu osé de mettre une pub là-dessus, puis c'était une vidéo de 40 secondes, de rien du tout. Puis je regarde, puis il y avait une pub, puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait un mec au Mexique.
Sur ta page Facebook ?
Ouais, qui avait réussi à
pirater
ma page Facebook, à rien changer pour pas que je m'en rende compte, à juste s'ajouter comme bénéficiaire des pubs, et sur mes vieilles vidéos, il avait rajouté les pubs partout. Puis il avait pas gagné beaucoup d'argent. Parce
une petite frontière, quoi. Il a mis un petit poste de.
Temps,
un petit péage.
Si c'est faire ça, il l'a fait avec peut-être des milliers de personnes. Donc c'est pas beaucoup d'argent qu'il a pris, mais.
Je pense que lui, il est bien, ouais.
Ma dédicace, t'es guillé à toi, Mexicain ?
C'était au Mexique, quoi.
Et ben, la bise au Mexique.
Ah ouais. Donc ça c'est une fois, ça m'avait un peu choqué de voir qu'on prenait mes vues.
Quand on est en Suisse, est-ce que, comme tu disais, c'est le fait des corpos et tout, mais je trouve qu'il y a il y a beaucoup de corpos, mais il y a de plus en plus de scènes en Suisse ou pas? Ou est-ce qu'il faut venir à Paris quand t'es humoriste suisse pour un peu gagner en crédibilité, gagner en côté « je suis humoriste ». Est-ce que nul n'est prophète dans son pays et donc tu... T'es venu à Paris et du coup, quand t'es revenu en Suisse, il y avait quelque chose et comment ça s'est passé?
Ouais. Je pense que c'est un peu moins pire maintenant. On a une génération d'humoristes suisses qui fonctionne bien et qui redonne un peu...
Il y a une vraie génération d'humoristes suisses, Charles Nouveau, Marina Rollman, tu vois.
Est-ce qu'on peut être humoriste qu'en Suisse? Est-ce qu'un Suisse qui ne fait rire que les Suisses...
Comme Inek aussi, qui est très drôle.
Mm-hmm. Ou est-ce qu'il faut absolument traverser
la
frontière?
Alors financièrement, tu peux... Et puis, tu vis très bien. Nathanaël Rocha vient jamais
après,
à Paris.
Après, les gars, ils vivent avec un SMIC, quoi. C'est-à-dire 8000 euros suisses.
C'est ça qui est dur.
On n'a pas de salaire minimum.
Du coup, avec 8000 euros, qu'est-ce que tu fais en Suisse? Tu payes à peine ton loyer, quoi.
Ouais. C'est le salaire maximum, par contre. C'est pas plus d'un milliard.
Parce qu'on n'a pas l'euro. Mais,
comme il nous a pris d'eau avec sa monnaie.
Ouais.
Non, mais j'adore parce que les Français, quand ils viennent chez nous, ils essaient de tout payer en euros. Puis souvent, on accepte, mais c'est quand même pas notre monnaie. Il y a un truc un peu.
C'est sympa, genre, bon, allez, on va parler leur langue, allez.
Allez.
Avec vos sesterces.
C'est comme si on était des vieux indigènes qui arrivent et qui ont poulé, prenez les cailloux.
Non, mais allez, vous considérez assez facilement comme un département de province de plus. Puis ça, c'est un.
Très riche, par contre.
Ça vous fait mal.
Ça vous fait mal, ça ?
Ouais, ouais. Quand les Français débarquent, genre, à Montreux ou à un spectacle en Suisse, puis ils parlent de thématiques françaises sans. Juste prendre la peine de rajouter deux phrases pour dire dans mon pays, je sais pas comme c'est chez vous, mais chez moi, qui parle comme s'ils étaient à Paris.
Moi, quand tu m'as invité à Montreux, je me suis adapté à la Suisse et ça leur a pas plu.
Non, mais je pense que t'étais en avance parce
c'était
que ton passage sur YouTube marche
incroyable.
Très fort.
Ah ouais,
pourquoi il est sur YouTube?
Ils
l'ont mis il y a pas longtemps, le gala. Ouais.
Ouais, et puis les gens retiennent de ce gala que ton passage est incroyable et que le public.
Je n'ai jamais entendu un mec aussi loin tousser.
C'est vrai qu'il y a eu un.
C'est-à-dire
vrai...
j'étais vraiment. Non. Il fait ça, il fait une vanne à moi. On va essayer de la mettre. Je sais pas si j'ai les droits, mais on va essayer de la mettre. Et tu oui, fais. Oui, tu... Et aussi, les gens iront voir, mais ça fait vraiment genre nanana nanana. Et au fond, 1200 places derrière, t'entends. Et t'entends un.
Hein. Oh non, mais là. Faut savoir s'il faut s'adapter à vous ou pas.
Non, mais moi, je trouve, honnêtement, ton passage, on l'a beaucoup tous aimé, en coulisses, on riait beaucoup.
Je pense que... c'était pour vous. Hein. Moi, je monte pas beaucoup
ouais,
sur scène.
C'est l'humoriste, l'humoriste.
C'est parce que tu m'as invité. Moi, je me suis pas dit, putain, vivement que Montreux m'appelle. C'est parce que tu m'as appelé. Je dis, bon, bah.
Je me souviens très bien. Alors, je me souviens très bien. Ça m'a fait très plaisir que tu viennes. Et pour moi, ton passage est très, très bon. Après, c'est vrai que le public
l'a fait
pour moins adhéré. Mais je pense
que c'était
un peu
en avance. Il était pas pour eux. Mais il était pas pour eux. Il était pour toi. T'as aimé?
Merci. Ben oui.
Ben voilà, je les emmerde.
Mais moi, je dis que t'avais réussi.
Ils avaient payé?
Oui.
Et ben encore plus marrant. Parce qu'on a tous gagné de l'argent sauf eux. Et on s'est fait kiffer.
Bon, il y a beaucoup d'invités à Montreux aussi dans la salle quand même. Mais oui, effectivement, toi, tu t'étais adapté. Tu avais fait tout un truc sur l'argent, sur les riches, sur les pauvres. C'était très, très drôle.
Surtout sur les histoires sombres de la Suisse pendant la guerre. C'est ça qui a vraiment...
Non, ça va. Ça, on en rigole facilement. Moi, je crois vraiment...
Oh, il y a eu un bon blanc sur le...
Oh, ah ouais. Là, en fait...
Lors des juifs, ça les a pas...
Quand on veut faire un son seul, on prend ce moment-là. Tu sais, toujours, dire, bon, on n'a pas le son de la pièce. Hop, on met ce moment-là.
Alors moi, c'est pas celui qui m'a frappé, parce que moi, je fais pas mal de blagues là-dessus, et en général, ça passe. Mais c'est peut-être une question de...
parce que
de...
c'est toi, parce que t'es ouais. Suisse.
Je suis suisse.
Moi,
je suis
venu français qui arrive, qui fait... Oh, oh.
Non, mais il y a un truc qui est un peu rébarbatif à la longue quand t'es suisse, c'est que là, les Français ne savent pas grand-chose de notre pays, et souvent, les choses qu'ils savent, c'est ça.
Et l'argent.
L'argent. Donc...
Le chocolat, les montagnes.
Ouais, voilà, alors quoi. Ça, un peu moins. J'ai l'impression que c'est plus peut-être les Américains ou les gens un peu plus éloignés, mais les Français, c'est genre... Les Suisses, on parle lentement. Il y a des gens qui parlent lentement, il y a des gens qui parlent rapidement.
Oui, tu parles pas lentement.
Moi, je parle pas lentement.
Je pense que c'est une question générationnelle, puis une question d'accent. Il y a des accents. Ouais. C'est comme tu vas dans l'est de la France, il y a des gens, ils ont un accent. Tu vas dans le sud, tu vas dans le nord.
À Paris, vous avez un accent, vous ?
Non, mais il comprend pas. Non, mais il a un accent, il ne le comprend pas.
Un accent lent. Ouais, bah ouais, mais bon, tu vois, des gars qui appuient.
Et puis ouais, l'argent, c'est chiant. Et le fait que
l'argent, c'est chiant.
L'argent, c'est chiant. C'était la dernière phrase de cette émission. Thomas Wiesel, n'hésitez pas à retrouver son blog, n'hésitez pas à le critiquer. Tapez Thomas Wiesel Fraud, faites des articles avec Thomas Wiesel Fraud et il
je les recevrai immédiatement. Non, mais c'est chiant de dès que tu parles en tant que Suisse que les Français te renvoient à ça.
Mais après, dans mon cas, moi, je l'ai fait exprès.
Oui, non, mais
ce qui me faisait rigoler, c'était de surtout pas leur parler d'un truc qui est pas énervant pour eux. C'est pour ça que c'était pour toi, c'était pas pour eux.
J'ai bien compris.
Mais c'était pour toi.
Moi, ça m'arrive par exemple quand je fais des blagues sur Internet. Je fais une blague de gauche. J'ai tendance à être très de gauche, et les Français vont commenter. Oh, un Suisse de gauche. Oh, un Suisse qui donne son avis. Et puis. La première fois, tu dis « Ah, c'est malin ». Puis la 150e fois, tu dis « Bah, écoute, si tu veux critiquer la Suisse, peut-être apprends ce que c'est. Apprends trois choses qui se sont passées dans notre pays. » C'est un peu... Enfin, je trouve que c'est un peu... C'est ce que j'essaie d'éviter de faire quand je vais dans des endroits vanner les gens sur leur lieu à eux. C'est d'éviter les trois premières
les
blagues
facilités,
évidentes
ouais.
qui viennent. Et d'essayer de m'intéresser à eux. Et ça, en général, ça change après. Si tu dépasses les premiers sujets un peu bateaux où ils ont l'habitude qu'on les vanne, si tu vas dans le Nord et que tu les vannes sur la consanguinité, peut-être ça va pas les faire.
Oui, c'est les clichés mainstream.
Mais si tu les surprends ou que tu vas leur parler d'un truc dont ils n'ont pas l'habitude qu'on parle, souvent ça marche très bien et tu peux vraiment te foutre de leur gueule si tu montres que tu as eu le respect de t'intéresser à eux. Et je trouve que quand les Français viennent en Suisse, souvent c'est pas le cas. Et à Montreux, j'ai beaucoup vu ça parce que c'est là où on voit beaucoup de Français venir et penser à la télé française parce que voilà, c'est capté pour la télé française, mais ils oublient que le public est suisse dans la salle. Ou alors, ils s'en rappellent pour faire des vannes sur l'argent, la lenteur, le fait qu'on est neutre. Et puis, c'est bon, on les a déjà entendus.
Puis après, ça dépend de la vanne, je pense.
Oui, bien sûr. Mais souvent, c'est pour eux, juste le fait de citer ça, c'est déjà la vanne. Quoi.
Ça arrive que la personne parte sur le plus gros cliché possible d'un truc.
Et qu'il révolutionne.
Mais la vanne, elle est tellement marrante que du coup, ou tu vois, il a utilisé le cliché, mais de la meilleure façon.
Bah, plus le cliché est gros, plus t'as intérêt à être original dans ta vanne ou drôle dans ta vanne.
Mais c'est ce qui est fascinant chez toi, parce que t'es un humoriste hyper intéressant, parce que t'as vraiment une méthode.
T'es fascinant, n'oublie pas que t'es fascinant.
Non, moi, tu me fascines parce que.
Toi, tu le fascines.
Moi, je mets des années, deux ans généralement pour écrire des textes et qu'ils soient bien ciselés et tout. Et toi, quand tu vas dans un lieu, t'as toujours. Moi, en plus, j'ai la peur de tester tout ça. Je t'ai déjà vu, on a fait une tournée ensemble à Montréal. Je te rappelle, on avait fait avec Sugar Sammy. Et on avait kiffé. Et toi, t'étais venu avec 5 minutes, sur ton passage de 8 minutes, il y avait 5 minutes, même quasiment plus. Entièrement écrit, spécial Montréal, capitale, avec l'actu qu'il y avait en ce moment et tout. T'as pris le journal.
Non, j'adore vraiment Québec, vous êtes incroyable. Et du coup, je pense que je vais pas repartir. Quand on vient à Québec, on n'a pas envie de repartir. Sauf quand on est une franchise de NHL. Non, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui croient que les Nordiques vont revenir. Il y en a aussi beaucoup qui croient que Jésus va revenir. Et si j'étais joueur, je miserais sur Jésus en premier.
T'arrives dans un lieu, toi, tu prends le journal, tu lis, t'écris des blagues. Et t'écris en permanence, en fait. T'as une sorte de... T'as compris comment ça marchait, la comédie. Et t'as compris comment être marrant. Et tu rodais ça. Et c'était juste... Quand un humoriste donne l'impression, justement, ce que tu disais, d'avoir... De connaître ta culture, de respecter, d'arriver d'ailleurs et de dire « Ah, il y a ça, de pointer, d'être un peu le bouffon qui a le droit de se moquer de vous parce que lui ne vit pas là-dedans et ne voit toutes les incohérences. » Toi, tu le fais sur mesure dans toutes les scènes. Tu viens à Paris, tu fais ça. Tu viens à machin, on va à Bordeaux ensemble, tu écris sur la ville de Bordeaux, tu t'es renseigné là-dessus. En fait, il y a un truc hyper geek et hyper fort, et même, je trouve qu'un peu surdoué, parce que c'est quand même super... c'est compliqué de faire ça. Moi, je peux pas le faire, par exemple. Moi, je mets trop de temps à écrire des blagues, et quand je les ai, je m'y tiens.
Bah déjà, merci. Mais je pense que c'est vraiment le résultat de pas mal de facteurs qui sont propres à moi, et c'est pas... je veux dire, moi, ce que vous faites, vous, je sais pas le faire. Moi, j'ai un vrai problème à être pertinent devant des gens qui me connaissent pas, puis à emmener des gens sur mes thématiques à moi. Et du coup, c'est une béquille que j'ai trouvée très rapidement. C'est si je le parle d'eux, ils vont m'écouter, parce que ça va les intéresser.
C'est pas une béquille, c'est carrément le mât de ton bateau. Bah, c'est ton style.
Ça l'était au début, puis après, c'est devenu, en tout cas à l'étranger, parce qu'en Suisse, maintenant, c'est un peu différent, parce que comme les gens me connaissent, j'ai un peu plus de facilité à parler de moi, puis à les embarquer sur mon truc. Quand je fais mon spectacle, en théorie, les gens ont payé pour me voir. Donc Mais quand je suis sur un gala ou dans une privée, je vais leur parler d'eux. Parce que c'est le truc le plus simple que j'ai trouvé. Moi, je crois que j'ai vraiment, c'est pas me flageller, mais j'ai pas assez de charisme et de conviction dans ce que je dis pour parler de n'importe quoi, n'importe où et que ce soit drôle. Et du coup, pour réussir à intéresser les gens puis à les avoir avec moi, je vais leur parler d'eux, je m'intéresse à eux. Et puis après, oui, il y a d'autres problèmes où quand j'arrive quelque part, je commence à lire toute l'actu, je commence à savoir, à vouloir savoir de quoi les gens parlent, je pose des questions, c'est quoi ça, c'est quoi ce scandale, machin.
Mais ça, c'est même hors. Tu le fais même pas. Pour des raisons artistiques, tu le fais parce que t'es comme ça, non?
Bah, je pense que si j'étais pas humoriste, peut-être que je le ferais aussi, ouais.
J'ai l'impression.
En l'occurrence, je le fais parce que ça me sert après pour...
J'ai l'impression que si on part... inédite.
Si on part en vacances et qu'on n'est pas, on n'a pas du tout prévu de jouer là-bas et qu'on va à Hawaï, je suis sûr et certain que tu vas me raconter des trucs d'Hawaï. Que t'auras eu envie d'aller voir un peu c'est quoi l'histoire d'Hawaï, d'où vient Hawaï, et que tu vas dire au barman, et alors ton endroit, il aurait pas été envahi par les colons
C'est possible, mais je pense que j'irais pas à Hawaï s'il y avait pas de spectacle là-bas.
D'accord.
Non mais c'était un exercice de pensée, t'es capable de le faire.
C'est rare, ouais, je suis pas sûr. Mais c'est rare que je sois dans un endroit sans raison.
Ah bah partir les en vacances avec moi vacances, c'est pas une raison.
Les vacances c'est pas une raison.
Passer
oui,
un bon moment avec
pas
moi.
Aussi loin parce que je sais pas.
Tu sais partir en vacances?
Ouais, oui.
Tu sais dire non, le cerveau on va arrêter deux secondes?
Oui, ça m'arrive.
T'as quel âge là?
31.
C'est à peu près l'âge où j'ai commencé à me dire c'est pas mal le fait de s'arrêter deux semaines pour repartir un peu sur des bonnes bases.
C'est difficile, mais c'est bien.
Ah, c'est difficile quand même.
Mais
t'as une hyperactivité mentale. Ce que j'aimerais savoir, c'est j'aimerais vraiment qu'on parle de ta structure mentale, parce que ça m'intéresse. Non, mais t'as une structure mentale.
C'est pour ça qu'on va me coller des électrodes.
Il est intéressé par ta structure mentale.
Non, mais t'as une structure mentale qui n'est pas la mienne et ça me fascine. Ça me fascine parce que je me dis, mais comment tu fais pour. Je te jure, il y a une d'arriver sur scène devant 2000 personnes, de pas savoir si ta blague va marcher, de la faire et qu'elle cartonne. Je me dis, soit il est inconscient, soit il est complètement conscient de ce qu'il fait, soit il s'en fout, mais complètement, je ne sais pas, je ne comprends pas.
Mais moi, c'est ça mon excitation, c'est écrire quelque chose de nouveau, et puis toucher juste, j'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail, et je suis content. Tandis que, comme je ne suis pas un interprète, si une blague dont je sais qu'elle marche, je la fais pour la 40e fois, puis elle marche, j'ai moins de satisfaction. Parce que j'ai l'impression que je l'ai écrite il y a 4 ans, et elle était bien quand je l'ai écrite, mais ce n'est plus une victoire qui est d'actualité, donc j'ai besoin de me renouveler, puis d'écrire des nouvelles blagues que j'aime bien. Parce que juste l'interprétation, c'est pas du tout mon point fort et j'ai l'impression que c'est pas ça qui me satisfait dans ce travail-là.
D'accord, c'est vraiment la combinaison parfaite des mots qui s'enchaînent pour toi.
Moi, c'est ça, ouais. Et puis c'est, oui, trouver, mettre le doigt sur un sujet qui intéresse les gens et trouver l'angle pour en parler et la blague qui permet d'en parler de façon moins clichée que ce que les gens disent au café du commerce du coin. Ça, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose.
C'est-à-dire que pour toi, l'humoriste, il doit dépasser le premier step du « j'ai trouvé une blague, elle est trop évidente, maintenant, il faut que j'aille au deuxième, troisième step ».
C'est pas pour moi l'humoriste, parce que vraiment, j'essaie de faire moi, avec mes armes, ce que j'arrive à faire, et j'ai pas la prétention de dire que les autres doivent faire ça, et souvent, je suis même plus impressionné par les gens qui font pas du tout ce que je fais moi, et qui arrivent à aller n'importe où et leur dire « je vais vous parler de moi, ça va vous intéresser, et je vais vous parler d'un truc qui vous concerne pas du tout, et vous allez être à fond dedans », ça m'impressionne, parce que j'arrive pas à faire du tout, mais... Moi, ce que j'arrive à faire, c'est ça. Et effectivement, pour moi, je dois réussir à surprendre les gens et à leur parler peut-être d'un sujet dont ils ont déjà parlé en famille, ils ont déjà parlé avec leurs potes, mais à leur dire autre chose ou à trouver la blague en disant au Québec, c'est un bon exemple. Je parlais de hockey sur glace, donc c'est quand même le sujet dont ils parlent tous, qui est un peu une religion chez eux. Et j'avais fait la blague dont j'étais content que personne n'avait pensé à faire. Et là, j'étais là, ça, ils vont s'en souvenir peut-être. Et puis le fait que c'est un petit Suisse qui débarque, qui le fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi.
Putain.
Mais oui, ça, j'aime bien. Et
là, en plus, tu te livres de plus en plus. Les gens te connaissent peut-être dans les chroniques quotidiennes ou les choses comme ça, qu'ils ont pu te voir dans les médias ou les choses comme ça. Mais tu parles aussi vachement de toi. Tu parles beaucoup de...
Ouais.
Tu parles beaucoup de ta maman, tu parles beaucoup de aussi du fait que, je peux le dire maintenant, on en a fait des blagues et tout, du fait que...
je suis stérile.
T'es stérile, pardon, j'allais dire... Cherchez le mot.
En fait, je sais même pas si...
Mais en fait, ça se trouve, il est même pas stérile.
Ça, c'est
une posture, on est d'accord.
Bruno a raison.
C'est une posture.
Médicalement, je crois que la stérilité, je suis même pas sûr que ça existe. En fait, c'est juste que t'es dans des espèces de pourcentage de...
Ça serait un spectre. Comme d'autres choses dont on pourrait parler.
Comme la photographie. Mais je suis infertile, je crois que ça veut dire qu'il y a une chance sur je sais pas combien de milliers que si je fais l'amour sans protection...
Déjà, vu qu'il y a une chance sur la place du sperme... Que tu fasses l'amour.
Alors ça a changé, Bruno.
Mais j'ai vu quelques biceps popés là sur le corps et tout.
Je sais pas si c'est en lien avec ça.
Moi, je pense pas que ça a changé. Ça veut dire que si tu toujours baisé, mais qu'avant tu faisais genre, tu faisais pas.
Il y a eu des périodes dans ma vie où je baisais moins, puis il y a eu des périodes où je faisais genre, je baisais pas.
Puis tu baisais que deux fois par jour. Maintenant, c'est 6. C'est gros baiseur à la base.
Les stats ont baissé.
Moi, je pense qu'il a pris le truc de ah, j'ai la tête de l'emploi.
Non, alors la réalité, c'est que j'ai écrit des blagues sur le fait que j'avais de la difficulté à séduire. Quand c'était le cas dans ma vie, puis je les ai traînés un peu plus longtemps parce qu'elles marchaient bien. Mais ça n'a jamais été des mensonges.
Ça part d'une vérité.
Voilà,
donc là, tu es infertile, c'est-à-dire que quand tu jouis, il y a un drapeau qui s'appelle qui sort quand tu t'attends quand tu jouis.
Oui, il n'y a déjà pas grand-chose qui sort.
Une crotte de nez. C'est une crotte de nez. C'est ça. Grosso modo, c'est un peu de morve. Tu peux nous le dire, c'est un peu de morve.
Mais ça ressemble. Hein.
Je vois déjà les commentaires. C'est déjà insupportable de faire des blagues sur la fertilité. Mais tu sais que c'est un sujet qui est hyper touché.
Ben je sais, c'est pour ça que j'étais content d'en parler. Et d'ailleurs, figure-toi que la première fois où j'en ai parlé sur scène, quand je venais de l'écrire, t'étais venu à Lausanne.
C'était en première partie.
Ouais, t'étais venu, je pense que c'était tes rodages.
Ouais, c'était à Lausanne pour Pulsion 2015. Voilà.
Et tu m'as demandé de faire tes premières parties. Et moi, j'ai eu la brillante idée de tester des blagues sur ce sujet hyper touchy pour bien lancer ton public.
J'adore.
Je vais leur parler de mes couilles qui ne fonctionnent pas. Ils seront chauds pour toi. Mais en l'occurrence, ça avait bien marché.
Je m'en fous, t'es là pour ça. On s'en fout de
peut-être a posteriori, si un débutant, ce que j'étais quand même à l'époque, faisait ça en première partie de mon spectacle et que ça bidait, que le public était mal à l'aise et que je passais une mauvaise soirée.
T'es pas un débutant. T'avais du matos sûr, mais tu voulais écrire des choses. Et moi, je pense que même dans mon spectacle, je pense que la clé de mon humour, c'est la sincérité. Et je pense que tu seras beaucoup mieux reçu en étant sincère avec des gens qui aiment ce que je fais et qui viennent voir mon spectacle que de faire autre chose de moins sincère, par exemple. Et c'était plus le meilleur endroit pour le faire.
C'est vrai que là, ça a matché.
Il a l'esprit, tu vois, pour moi, on est de l'école du meilleur esprit du stand-up, moi, je pense. En tout cas, c'est celle que moi, je préfère.
L'école du micro d'argent et l'école du meilleur esprit du stand-up.
Pour moi, c'est l'école de l'esprit du stand-up, c'est-à-dire...
Ça donne quoi en acronyme ?
C'est pas de ta faute, c'est à moi de les relever. Tu vois, pour moi, la première partie que je t'offre, il y a des gens, ils te disent, fais ma première partie, c'est pour les chauffer. Chauffer, si tu les chauffes pas, t'as raté ton travail de première partie. Et il y en a d'autres qui disent, la première partie, c'est comme moi, quand je faisais des premières parties, c'est pour moi tester un truc, sinon je serais pas en première partie, tu vois. Et je pense que Kian, il a pas du tout ce truc-là. Tu vois, il y a pas du tout ce truc-là. Des fois, les gens sont là, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je fais ? Kian, il dit, mais fais ce que tu veux, parce que même si ça marche pas, c'est mon taf à moi que ça marche après quand je fais mon passage. Parce qu'il y en a qui disent, qui vont engueuler leur première partie après, comme si c'était de leur faute en disant, bah non.
Après, pour moi, il y a des limites assez évidentes, c'est que tu l'as pas plombé la soirée non plus.
On s'en fout.
Pour moi, c'est jamais arrivé. Regarde, parce que il faut prendre la première partie comme en musique. C'est jamais arrivé, quelqu'un il se pointe, il dit je veux absolument voir tel chanteur, c'est mon chanteur préféré. La première partie est pas ouf. Donc il dit je déteste maintenant le chanteur.
Non, mais tu peux mettre une.
Pour moi, c'est une fausse
extrême.
Ouais, mais une ambiance, c'est-à-dire que le mec descend, il insulte
le public ou il
frappe, il frappe un gamin. Genre là, c'est bizarre, là, j'avoue.
Oui, voilà, non, mais sinon, pour moi, les gens, je pense pas qu'ils se disent j'étais parti pour rigoler, la première partie était tellement nulle que je déteste le mec que je suis venu voir. J'y crois pas.
Je pense que c'est les
gars qui n'ont pas assuré derrière qui vont engueuler leur première partie. Tu me les as plombés.
Il y a des gens qui engueulent leur première partie.
Oui, de ouf.
Ils ne la reprennent pas, du coup.
Non, qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je voulais qu'il les chauffe.
Non, mais je pense que c'est les trous du cul dans d'autres domaines également.
Chacun son trac.
Non, mais parce que toi-même, tu l'intègres, parce que tu dis, j'aurais pas dû faire ça en première partie. C'est parce que pour moi, là, je t'en parle parce que tu l'as intégré.
Non, je dis c'était risqué. Je peux dire
ouais,
pas
du tout. Risqué pour
bah, par rapport à lui, c'est ça que tu disais. Tu disais c'était pas le meilleur truc pour les chauffer, pour que toi t'arrives.
Bah, je pense par rapport à tout le monde, parce que c'est pas un truc de début de spectacle. Et du coup, la première partie, c'est quand même le début du spectacle, vu que c'est même avant le spectacle.
Après, ouais, c'est le passé des écoles. Mais c'est comme, tu vois, quand on a fait derrière un micro, moi, j'étais à Virginie Fortin en 1.
Saviez-vous qu'autour de la Terre gravitent des millions de tonnes de déchets? Nous, ça nous dérange pas, ça? Autour de notre planète, il y a des millions de déchets qui gravitent. Ça veut dire que pour les civilisations extraterrestres qui nous regardent en ce moment, on est l'espèce de voisin ermite dégueulasse et peurant qui a un petit dépotoir devant chez lui. C'est nous, ça, les terriens. C'est de ça qu'on a l'air. On le connaît tous, ce voisin-là, là, d'ailleurs. Hein? Normalement, c'est, ses rideaux, ce sont de vieux drapeaux. Et il y a une petite collection de 3 vieux frigos dans le jardin. Et il brûle des pneus l'été. C'est son hobby.
Parce que les gens, elle va les faire voyager dans la galaxie. Oui, mais il y a un truc, tu dis, mais non, faut mettre le plus dynamique.
Faut mettre le punchy au début, faut les réveiller.
Non, moi, ce que je veux, c'est ouvrir leur esprit. Donc, ça va être Virginie Fortin en 1. Comme ça, après, derrière, ils sont open. Parce que, c'est, tu vois, elle a des prémices qui sont assez longues. Elle pose des questions existentielles. Et pour moi, c'est, tu choisis aussi le ton que tu donnes à un show en disant, ça va être ça dès le début, tu vois. Je sais pas si je suis clair dans...
Ouais, je vois très très bien. En fait, tu dis, maintenant, on va vous parler, on va raconter des choses intelligentes.
Si je devais choisir, si tu me dis, je fais quoi? Je fais mes blagues qui marchent super bien sur les pistaches, ou je fais un truc sur ma stérilité en première partie de Cannes, franchement, je dis, mais non, on fait la stérilité.
Oui, mais le truc, c'est sur la sincérité, je savais pas encore si c'était des blagues qui marchaient bien.
Mais dis-toi, je me pose la même question. À ce moment-là, moi, je dis, mais je vais leur parler de la mort de mon père aux gens ou pas? Je vais faire rire, je vais la faire rire avec le sketch que j'ai sur les soldats américains, sur le cinéma américain qui est hyper efficace, hyper punchy, où je vais raconter une histoire de vengeance de gens qui m'ont déçu à la mort de mon père. Et c'est ce qui n'est pas drôle, en fait. Et c'est un pari aussi pour moi. Et je pense que l'humour est un pari de toute façon. Ouais. Et que c'est en se contentant d'être dans une zone de confort qu'on n'évolue jamais et qu'on reste pas remarquable.
Oui, mais moi, j'ai toujours eu ce truc de le pire qui puisse arriver, c'est que ça rit pas. Et puis, je retravaillerai dessus pour que ça rit. Et si ça rit,
c'est un truc de Suisse.
Pourquoi?
Parce que nous, excuse-moi, il y a eu des événements, nous. D'accord? Donc, le pire qui peut arriver, c'est pas que ça rit pas. Ça, le spectacle.
Vous êtes vraiment protégé.
Alors, vraiment, c'est bien. Tant mieux pour vous. Ok, autant pour moi. J'essaie de faire une émission, une blague sur le Bataclan.
Le Bataclan? Je suis censé aller jouer au Bataclan, normalement. Et c'est drôle, enfin c'est drôle. En Suisse, c'est pas une salle de spectacle pour nous, c'est vraiment.
Ah bah oui, c'est un fait divers.
Ouais, c'est ça.
Elle est pas très connue en dehors de la France, je pense.
C'est pas comme des si fois on a acheté un DVD où dessus c'est marqué live au Bataclan, ouais. Comme ça, mais c'est pas un truc qu'on voit sur les affiches où les gens sortent.
Toi, c'est associé qu'à ça. Pour un Suisse.
Bah moi, c'est beaucoup, mais pour les gens en Suisse qui suivent un peu ma carrière et qui verront machin Thomas Wiesel au Bataclan, ce sera un peu bizarre, je pense.
Il paraît que tu.
Je les ai, hein, si tu veux.
Vas-y, je veux bien.
Ah, t'as envie.
Ah, ça que
j'ai envie de ouf. J'ai envie de m'amuser avec ton cerveau, Thomas Wiesel, parce que tu nous fascines.
Bah, écoute, moi, je le fais tout le temps, donc allez-y, je vous le prête.
Il s'amuse bien.
Mais oui, moi, tout seul, je m'amuse
assez bien. Il paraît que tu connais tout, surtout dans les ligues de tous les sports des joueurs.
Non.
Tu connais tous les joueurs de toutes les équipes, par exemple de la Coupe du Monde 2018.
Oui, parce qu'il y a des sites sur Internet où tu peux faire des quiz de culture générale, et moi, j'aime bien surtout la catégorie sport, et du coup, je fais des quiz, et je suis un peu... J'aime bien les faire jusqu'à que je les sache. Donc,
dis-moi
je les fais.
Stop.
Ça, c'en est un que j'ai appris. Ouais, pendant la Coupe du Monde 2018, j'ai appris les joueurs de la Coupe du Monde. Et puis, de temps en temps, je vérifie que je les sais toujours.
C'est une passion. En fait, est-ce que ton cerveau, il est insatiable? Genre, il faut que t'apprennes, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Parce qu'on est tombé sur Corée du Sud. Corée du Sud, t'y es? T'es bien?
Ouais, mais c'est assez facile, Corée du Sud. Parce que... Non, mais en vrai, c'est une des équipes les plus faciles. Parce que du coup, sur les 23, t'as que 8 ou 9 noms de famille.
D'accord.
Parce que c'est, tu rentrais que le nom de famille.
Vas-y,
donc
bah
tu
déjà,
mets
c'est marrant.
Ki, Kim, Ho, Cho, Hong, Wang, Moon, Son, Yoon, Yang et Jung. Et puis là, normalement, tu les as tous.
Ah oui, ah, c'est ce qui est écrit au début. Moi, en fait, je mets plus de temps à lire que lui.
Oui, en Corée du Sud, c'est le nom de famille d'abord.
Bon, alors attends, ok, un autre.
Mais faisons un vrai.
Ok, et stop.
Bon, l'Argentine, non, l'Islande, c'est plus
ouais, là, ouais, c'est l'Islande, il y a des lettres un peu cheloues.
Ouais, l'Islande, les gardiens, t'as Halldórsson, Runarsson et Schramm. Après, Ingason, Skúlason, Gíslason, Traustason, Eilofsson, Magnusson, Gudmundsson, Sigurdsson, Sigurdarsson, Bodvarsson, Hallfredsson, Bjarnason, Et Severson.
Ouais, t'as oublié Severson, j'allais dire. Ouais.
Et je suis pense... Je crois qu'il n'y en a pas en F que t'as pas dit, non?
Fried Johnson, Finn Bogason.
Finn Bogason.
Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que je les ai tous. Hein.
C'est incroyable. Mais pourquoi tu fais ça? Attends, juste, excuse-moi. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois les noms?
Pourquoi tu fais ça?
Qu'est-ce que tu... Bah,
là, je vois la page telle qu'elle est présentée sur le site du quiz. Et puis, je vois les joueurs et je sais à peu près où sont les joueurs. Donc, je fais comme ça.
Tu lis un souvenir?
Mais tu vois leur tête aussi?
Non.
Okay. Tu lis
ceux que je connais, oui, mais la plupart, les Islandais, je pense que j'en connais 3 ou 4 qui jouent dans des grands clubs, mais sinon...
Tu lis un souvenir, c'est-à-dire que tu arrives à un souvenir et tu le lis.
Non, mais dans ma tête, j'en associe 2 ou 3 ensemble, bah, tu vois, les F, Fried Johnson, Finn Bogason, machin...
Non, mais moi, ça marche pas comme ça, hein. Finn Bogason, là, tu me l'as dit, je le retiendrai même pas.
Finn Bogason, il joue en France, en plus, je crois.
Finn Bogason, il a rejoint, tu sais qui il a rejoint? Il a rejoint le petit éléphant dans Vice Versa, qui est dans Les Oublis. Comme ça, bah, il a rejoint le petit éléphant Bing Bang.
Bah oui, mais moi, c'est des trucs, genre les noms, je les lis 2-3 fois, en général, je les retiens. Et,
mais pourquoi tu lis 2-3 fois les 266 joueurs de 236 joueurs
Parce que dans ma tête, il se passe plein de trucs qui, des fois, sont pas très agréables, et puis quand je fais ça, bah, je
ça
pense plus qu'à
ça. Autre chose
bah, je pense plus qu'à ça, et puis le temps passe, et puis ça me détend.
T'as genre un peu de dépressif obsessionnel, c'est-à-dire que pour lutter contre la dépression, t'obsessionnel.
Non, c'est pas la dépression, c'est juste que des fois, genre. Ça tourne en rond, je sais pas trop où ça va, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, et puis du coup je fais ça, puis ça me canalise, puis ça fatigue moi en fait quelque part, parce que je suis pas en train de me poser 1000 questions, je suis juste en train de me demander qui est l'attaquant de l'Islande. Et puis l'attaquant de l'Islande, je le connais, tandis que d'autres
c'est
questions...
C'est une sorte de méditation.
Si un puzzle.
Ouais, ouais. Peut-être. Ouais, ouais. C'est une façon de me cadrer pour pas que je parte dans tous les sens, puis je fais ça... Souvent quand je dois travailler, puis que j'arrive pas à travailler, puis que je suis frustré, puis je procrastine, bah je fais ça.
J'ai une théorie sur la... l'obsession. J'ai une théorie sur cette... alors, je ne suis pas psychiatre, donc je ne connais pas les termes obsessionnels. C'est obsessionnel dans le... Quand je le dis, c'est dans le sens commun du terme. Genre, mm-hmm. C'est obsessionnel, tu n'arrives pas à trop maîtriser ta pensée et elle se focalise sur quelque chose de pas forcément positif. Des fois de positif, mais des fois aussi de pas positif. En fait, je pense que...
Oui, parce que c'est bizarre, parce que déjà, parce que vous parlez d'obsession, mais toi, tu parles d'un truc qui part dans tous les sens. Alors pour moi, une obsession, c'est un truc que dont tu n'arrives pas à décrocher.
Donc c'est plus toi, c'est plus...
En fait, tu te raccroches parce que ça part dans tous les sens.
C'est quoi c'est des ramifications que tu vois dans ta pensée?
Mais je pense des gens font
tu
des...
Tu peux penser à plusieurs choses en même temps?
Ouais.
En même, tu veux dire que tu les visualises, tu vois 2 images, tu vois 6 images,
quand
2 images...
Tu dis quand j'essaie de retrouver ces joueurs?
Non, peu importe, donc quand tu me dis...
Attends, parce que
de...
moi, ma question, c'était... en gros, tu dis, j'ai des trucs
qui sont
en
pas
fait,
agréables.
Comme si ça éclatait... Et que regarder les joueurs, ça te focalise.
Ouais.
Donc c'est-à-dire que la pensée précédente, elle est pas du tout focalisée sur quelque chose. Donc
non,
c'est pas une obsession.
C'est
pas une pensée obsessionnelle.
C'est pas genre il m'a pas dit ça. Je suis énervé à cause de ça.
Parce que pour ça, vous parlez pas de la même chose. Que toi, quand tu parles d'une obsession, tu parles de.
Je focalise sur un
de,
truc.
Quelqu'un t'a bousculé et tu penses plus qu'à quand il m'a bousculé, mais il m'a bousculé.
Et après ça redescend.
Non, moi je suis plus léthargique. Je pense, je suis un peu comme ça. Je flotte, je suis un peu diffus. Puis du coup, ça me canalise, ça me.
Donc c'est limite
je pense qu'il y a des gens ils font des sudoku, des gens font des mots croisés. Bon, moi je fais des quiz de sport.
Ouais, mais enfin moi quand je fais des mots croisés ou un sudoku, c'est pas parce que c'est le truc que tu décris avant, c'est quelque chose que je connais pas. C'est-à-dire c'est des pensées.
C'est quoi quand tu dis que c'est pas très agréable? Si on veut, tu veux pas en parler, tu n'en parles pas.
Non, non, c'est pas que c'est.
Peu importe les thèmes, c'est genre qu'est-ce qui.
C'est-à-dire bah, c'est juste par exemple si j'ai une tâche à faire et j'ai pas envie de la faire. Je vais trouver tous les moyens de pas la faire.
Ah ça, oui, ça s'appelle les études, ça s'appelle passer son bac.
Ouais, ou même travailler.
Ça s'appelle j'ai une chronique pour demain.
Voilà, même l'humour. Et puis bah souvent là à ce moment-là j'ai des pensées un peu en mode tu devrais travailler, pourquoi t'arrives pas à travailler machin. Et puis je commence à m'énerver contre moi-même. Puis au lieu de m'énerver contre moi-même, je fais ça. Alors j'ai toujours pas travaillé, mais au moins pendant 1 heure, je pense à autre chose.
Ça me servira dans une émission un jour.
Ah ça m'a jamais servi à rien du tout.
C'est bon, ça sert là.
Bah c'est trop.
On va te payer 4000 euros. Tu trouves le joueur. Comme ça, tu te dis, ça sert, putain, de ouf. J'ai bien fait d'apprendre.
Non, mais dans mon
spectacle, ça va servir. On va refaire une autre équipe.
On va dans Slam Dunk millionnaire, mais pas encore, tu sais. Ça va être dans 4 ans.
Je pense que justement, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'un jour, je peux gagner, qu'il veut gagner 10 millions, mais il y aura une question sur la cuisine ou les oiseaux. Puis ça m'intéresse pas, et du coup, je vais me planter.
Mais intéresse-toi aux oiseaux.
Tu sais, le mec qui a gagné l'émission de Jean-Luc Reichmann, là, qui vient de sortir un bouquin, il a 19 ans, je crois qu'il est aussi autiste au fonctionnement. Enfin, je sais pas, le terme. Politiquement correct, ça change un peu tous les 2 ans. Mais... Et lui, il sait tout sur tout. Et du coup, il a gagné cette émission 140 fois de suite. Et moi, le problème, c'est que je sais tout sur pas grand-chose. Quoi. Sur vraiment des trucs... J'ai appris les 500 plus grandes villes des États-Unis. Mais si tu me parles de la Picardie, je sais même pas te dire quel département il y a.
Mais donc, du coup, la 367e...
Non, j'ai pas appris dans l'ordre. Ah, j'ai appris, j'ai la carte. J'ai des petits points sur la carte, je peux te dire.
Okay.
Genre, je peux faire la Californie. Mais c'est inutile, ça sert à rien du tout. C'est juste...
En fait, c'est ta méditation.
T'en sais rien. Peut-être qu'un jour, tu vas être paumé au milieu des États-Unis. Sans carte ni rien, et tu vas dire, alors attends, si
Le seul moment où je peux l'utiliser, c'est par exemple ces temps, on regarde beaucoup des séries docu Netflix avec ma copine, et c'est souvent dans des bleds aux États-Unis. Puis à chaque fois qu'ils sont dans un bled aux États-Unis, je peux lui dire si c'est une des 500 plus grandes villes ou pas. Mais c'est tout. C'est le seul moment. Parkland, Florida,
on est perdu. Oui, mais on est dans une des 500 plus grandes villes.
C'est tout ce que je veux dire.
Et elle, comme elle est hyper cool, comme elle connaît les 500 plus petites, elle te dit, ah, elle est pas non plus, elle doit être moyenne cette ville.
J'ai moi-même souffert de ma pensée pendant plusieurs années. Parce que ma pensée a imposé un diktat de souffrance et de pensées que je voulais pas avoir et des choses dures comme de la culpabilité, de la souffrance, du regret, enfin plein de choses, de l'amertume et tout. Et j'ai visualisé ça comme une sorte de poulie qui tourne, d'accord, comme une sorte de roue qui tourne, d'accord. Et quand ça va bien, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand ça va pas, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je la visualise comme ça. Quand elle tourne dans le sens des aiguilles, elle est créatrice. Elle a une force de ouf, parce que j'ai une force créatrice de ouf, parce que enfin, je pense que mon cerveau est tellement dans un échappatoire de l'instant qu'il va chercher des sujets, des scénarios en permanence pour créer des choses, et ça me rend créatif. Et ça me rend justement imposable avec mes créations, c'est ça qui est cool. Maintenant, ce que je vois, c'est que cette même force, avec la même force, elle peut détruire. Et pendant des années, elle m'a détruit cette pensée, et mon rôle dans ma tête, mon rôle dans ma vie, c'est de tout faire pour organiser à ce qu'elle tourne dans le bon sens. Mmh. C'est-à-dire une hygiène de vie, un bon sommeil, un bon entourage, enlever les personnes toxiques, bien manger, faire des siestes, s'entourer de gens, avoir des projets qui te plaisent, jamais faire de compromis. C'est toutes ces petites règles-là qui m'ont hyper formé. C'est mon hygiène de vie. Me coucher avant minuit si je vais pas bien. Je sais que si je vais pas bien, je me couche avant minuit, le lendemain, je vais bien. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que cette pensée, elle est maintenue dans un flot. Alors que si je me mets à fatiguer, si je me mets à boire de l'alcool, si je me mets à faire des choses comme ça, au bout de 3-4 jours, ça va. Absence de sport, ça peut m'emmener ailleurs. Et ça m'emmène dans un lot de souffrance. Est-ce que toi, t'as cette connaissance de toi en disant, j'ai quand même une... C'est pas une dette envers soi, mais j'ai une tâche envers moi pour être bien, si j'aspire à être bien.
Je pense que je commence à mieux me connaître et je commence un peu à comprendre ce qu'il faut que je fasse. Moi, par exemple, un truc que j'ai, c'est que beaucoup de personnes, quand ils vont pas bien, ce qui les aide à aller mieux, c'est le contact social.
Ouais.
Et ils se tournent vers les autres. Et moi, le contact social, ça a toujours été plus une épreuve qu'autre chose, un truc que je dois m'imposer. Par exemple, toi, tu l'as déjà vécu, et peut-être Bruno aussi, je suis pas sûr, mais souvent, quand on m'appelle, je réponds pas. Parce que si je suis pas dans le bon état d'esprit pour parler au téléphone avec quelqu'un, si par exemple, ça fait 4 heures que je suis tout seul au bureau, ou que je suis devant mon ordi, je vais pas pouvoir. Deux sonneries. Mais je pense que toi, t'es comme ça aussi.
Tu veux rencontrer les téléphonophobes de ta région? Appelle Navo.
Appelle pas Navo.
Écris un message pour dire pourquoi t'appelles. Et là, peut-être qu'on te rappelle. Mais typiquement, ça, c'est un truc où genre...
Navo et moi, par exemple, je lui envoie un texto, je fais on peut s'appeler, et des fois, il m'en prend 3 jours après. Ok, et je l'appelle.
Bah, moi, je suis un peu comme ça. Et ouais. si on m'appelle sans que je sache pourquoi, il y a une espèce d'angoisse parce que...
Je pense qu'il y a un truc avec les introvertis qui sont bien dans leur vie, c'est qu'on oublie qu'ils sont introvertis.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que le fait que tu montes sur scène, moi, le fait que je fasse des soirées, que
tu fais des émissions, tu parles.
Je fais des émissions, je rencontre des gens et tout. Ça fait oublier, y compris à soi-même, qu'à la base, t'es introverti. Donc, t'es un introverti qui se force et pas un extraverti qui doit se calmer. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a ce truc, tu vois, il monte sur scène, il fait des chroniques, il se montre. Donc, il peut pas être introverti.
Il
en fait, on confond introverti et timide.
Ouais.
Alors que tu peux être introverti et pas du tout timide. Moi, je suis pas du tout timide. Mais du coup, ça te fait bugger. Toi, t'es un peu timide. Mais du coup, ça te fait un peu bugger parce que tu... Du coup, vu que tu pars du principe, comme tout le monde te le dit, que t'es pas introverti, tout ce qui correspond à l'introverti, tu le nies.
D'accord. Et tu dois faire un effort de ne pas être introverti.
Que si je vois du monde... Moi, j'aime bien voir du monde. Mais après, il faut me laisser tranquille. Mm-hmm. Moi, je prévois demain, là, c'est le dernier jour d'enregistrement, demain, il n'y a rien dans mon agenda.
Ouais, c'est vrai.
Jusqu'au soir, il n'y a rien.
On mange ensemble.
Et j'ai appris à le faire. On mange ensemble le soir, tard.
Ouais.
Mais genre... Tu me dis, et le lendemain de l'émission, n'oublie pas, il y a un repas avec 2 personnes que tu connais pas, même une. Je fais, mais non, je pourrais pas, parce que j'aurais fait l'effort de rencontrer du monde, de parler avec du monde, d'être en mode extraverti. Et maintenant, je me connais, et je sais qu'après, faut que je fasse rien. Mais c'est vraiment rien. Mm-hmm. Faut que je sois tout seul avec moi, alors que je pourrais avoir... je pourrais avoir l'impression de perdre mon temps, donc je te rejoins un peu, de dire pourquoi j'apprends les joueurs ou pourquoi je joue à ce jeu qui m'apporte rien. Mais si je le fais pas, ça me m'overwhelm, je sais pas comment dire, ça me surchauffe.
Ça te surchauffe. Je vois très très bien cette sensation.
Et donc, c'est un truc d'introverti.
Je me reconnais vraiment dans ce que tu décris.
Et tu as trouvé des astuces?
Moi, j'ai un espèce de quota social, et du coup, j'essaie de pas le gaspiller avec des gens que j'aime moins que d'autres. C'est-à-dire que je vois que les gens que j'aime beaucoup parce que je sais que je peux pas. Si je passe une mauvaise soirée, c'est pas bah demain j'en passerai une mieux. C'est bah comme Navo, demain je me repose, après-demain je me repose et puis peut-être dans trois jours je peux de nouveau refaire une soirée avec des gens. Donc j'essaie de pas gaspiller mes moments sociaux, mais j'essaie de vraiment choisir mes interactions pour qu'elles soient bah celles que je suis obligé de faire via mon travail, etc. C'est vrai qu'on est beaucoup confronté à des inconnus et ça. Souvent, je me mets dans un mood où je sais qu'il y a des inconnus qui vont venir me parler. Et du coup, maintenant, je commence à mieux le gérer.
Mais c'est un effort.
Ah, c'est un effort, ouais. C'est clairement un truc où, pour moi, c'est pas naturel. Des gens qui viennent me parler de trucs intimes de ma vie, parce que j'en parle sur scène, j'arrive à le comprendre, j'arrive à l'expliquer. Mais quand ça m'arrive, j'ai envie de me barrer en courant. Donc ça, c'est des trucs que je dois me préparer.
C'est important d'expliquer parce que la plupart des gens n'ont aucune conscience que ces schémas de pensée existent. On se dit, bah, pourquoi il reste trois jours chez lui tout seul à aller sur Internet? Ils se disent bah il est fou, il est voit il y a un truc qui est déviant par rapport au schéma de pensée de traditionnel, tu vois. Il y a plein de gens, ils ne comprennent pas pourquoi
en fait,
tu t'enfermes 3 jours.
Je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de comprendre tout à fait ce que je ressens et
ouais. Bah oui, c'est sûr.
Non mais c'est vrai qu'il y a
plein de gens en face. Ouais.
En fait, c'est de dire bah le problème c'est que c'est propre à chacun, mais je sais pas si t'aimes pas j'en sais rien, moi faire des papiers. Ça te paraît complètement logique de dire si je passe toute la journée là à faire des papiers, demain week-end, je me repose. Si, pour toi, l'équivalent de faire des papiers, c'est interagir avec le monde. Parce qu'en gros, ce que je... Alors, pardon, je pars sur moi, là, mais...
Ouais, tu me...
C'est que, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. C'est-à-dire que moi, ça ne m'arrive pas de parler à quelqu'un, de dire, il fait beau, hein, ouais, et il se passe rien. Si je te parle, je veux savoir, je veux comprendre, je veux analyser, tu me racontes ta vie. En fait, je suis réellement avec toi. Et c'est extrêmement fatigant, mais je ne sais pas faire autrement. Tu me dis, on se pose avec quelqu'un et on échange des banalités. Pour moi, dans ma tête, ça n'existe pas. Et donc, il y a ce truc où c'est un truc qui est épuisant mentalement. Donc après, il faut se reposer.
Comme tu dis, tu as un crédit social.
Comme si à chaque fois que tu voyais des gens, il faut faire un foot.
Ouais.
Tu vois, voilà, ça t'épuise. Et même à un moment, tu dis, dis-moi, dès que je rencontre quelqu'un, c'est un foot. Donc, ce serait légitime de dire, bon là, ça fait 5 heures qu'on joue au foot. Je veux m'asseoir maintenant. Et l'équivalent de s'asseoir, c'est me parle plus.
D'accord.
Mais c'est drôle parce que moi, je suis pas tout à fait comme toi et je pense que c'est normal parce que
même... On est tous différents.
Oui, non, mais même dans les grandes familles avec des caractères communs, il y a des trucs différents. C'est que moi, j'ai beaucoup de peine à être comme toi, locked in, à être dans une conversation, à m'intéresser, regarder dans les yeux les gens. Parce que souvent, ça m'épuise trop et puis ça me gêne d'entrer dans l'intimité de quelqu'un. Si c'est pas déjà quelqu'un qui est intime avec moi, j'ai de la difficulté. Et du coup...
D'accord, mais le truc au milieu qui consiste à être quand même avec la personne... Mais non. À ne même pas t'y intéresser, ça te semble complètement contre-productif.
Ouais, mais
quand
c'est soit
je fais l'effort, soit ça. Je le fais pas.
Mais quand je suis obligé de le faire, j'arrive assez bien à faire un peu semblant de m'intéresser, puis à donner le change. Et puis...
Quand t'es obligé. Mais ton choix profond, quand tu dis ce que je veux voir, c'est mes amis, c'est parce que tu te dis, ça vaut le coup que je me fatigue à me concentrer sur cette personne, plutôt que d'être obligé de me concentrer sur quelqu'un qui, ça va, tu vois, ça ne m'intéresse pas.
Mais
donc
coup...
en fait, ça se rejoint. C'est, moi, je dis que c'est fatigant. Je dis que c'est faire un foot de m'intéresser à quelqu'un.
Ouais.
C'est juste que comme j'aime la personne,
je pense
que
t'as plus de facilité à le faire que moi.
Mais non, c'est t'as cette impression parce que je t'aime beaucoup.
Ah, peut-être.
Mais il faut me voir avec les gens que j'aime pas.
Bah, Navo, j'ai déjà vu faire ça. On était à table comme ça, puis un jour il a fait.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il est parti sans dire au revoir.
Ah, moi, je fais souvent ça. Partir sans dire au revoir, je fais souvent. Parce que souvent, le fait de dire au revoir, si tu pars plus tôt que les gens ou plus tôt que ce qui est socialement acceptable, tu dois leur justifier pourquoi tu pars.
Tu t'es déjà levé et parti.
C'est à table, non. Ce que tu viens de décrire, non.
Il y a 10 ans, il avait fait ça.
C'est le
un jour, à un rendez-vous, les gens, ils discutaient.
Mais c'était plus des expériences sociales. C'est le jour où je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que c'était pas normal. Et du coup, c'était plus des expériences. Je l'ai pas fait longtemps. Mais je disais, qu'est-ce qui se passe si là, je pars sans dire au revoir? Combien de gens? Je trouvais que c'est une expérience intéressante. Parce que si j'avais dit au revoir, je serais pas là pareil.
Mm-hmm.
Combien de gens vont s'arrêter sur le fait que j'ai pas dit au revoir alors que ce qui est important, c'est l'info, il est là, il est pas là, tu vois. Et en fait,
c'était les conventions sociales,
des trucs de conventions sociales un peu qui me, à un moment, me travaillaient. À un moment, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, faut les accepter.
Bah, moi, j'ai jamais fait ça, mais je suis souvent allé pisser. Mais chez moi.
bon, je vais pisser. Et le mec est jamais revenu.
Bah ouais.
Alors, c'est quoi, toi, tes solutions? Si les gens qui nous regardent sont un peu dans ton schéma de pensée, ils se rendent compte qu'ils ont un schéma de pensée qui est celui-là, qui n'est pas forcément différent, mais qui est celui-là. C'est quoi tes astuces pour te focaliser? L'écriture?
J'ai remarqué que, par exemple, en termes d'interaction sociale, ça m'angoisse beaucoup moins quand il y a une activité qui est liée. C'est-à-dire que aller boire un verre en tête-à-tête avec quelqu'un, ou aller manger avec quelqu'un où je ne suis pas dans le cercle d'intime, où je sais que ça va bien se passer, mais j'adore la personne, ça m'angoisse fort. Aller faire un basket avec quelqu'un, aller faire un footing ou des activité sportive ou autre, mais quand il y a une activité autour avec des gens, ça me va, parce que je sais que tu dois pas meubler tout l'espace, tu dois pas obligatoirement avoir une conversation hyper intéressante et être 100% présent, donc ça me rassure beaucoup. Donc souvent,
il y a une peur du vide.
Ouais, vraiment. Donc souvent, quand je sais que je dois voir quelqu'un ou que j'ai envie de voir quelqu'un mais que ça m'angoisse un peu trop, bah j'essaie de trouver l'activité qui pourrait combiner le plaisir de voir quelqu'un avec combler cette angoisse qu'il se passe, que ce soit emmerdant. Et puis sinon, les autres techniques que j'ai, c'est que, bah, comme Bruno, je me donne vraiment des plages où genre je suis seul et puis même je réponds pas à mon téléphone, je le mets en mode avion et puis je passe du temps seul, bah, souvent avec mon ordinateur, c'est un peu la tristesse du siècle, mais c'est souvent comme ça que je me recharge et puis que je me change les idées et puis l'actu beaucoup. Ça m'aide beaucoup d'arrêter de me focaliser sur moi, c'est que tous les jours je lis tout ce qui se passe dans le monde, enfin, mon petit monde, mon spectre à moi. Et puis je lis, je sais pas, une centaine d'articles, et puis j'en trie un millier, et puis comme ça, je m'intéresse à d'autres choses, j'abreuve tout ça d'informations, puis ça calme un peu le truc.
Et le goal de la Hollande en 2018?
Le goal de la Hollande? Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde, les pays.
Ah merde, bah, tu vois.
Par contre, très beau but de Dennis Bergkamp en 98, en 98. Magnifique, magnifique goal de Dennis Bergkamp en quart de finale. Je vous invite à aller le voir sur YouTube avec les commentaires hollandais.
Donc, la focalisation, et je pense que c'est de là que tu trouves ta puissance comique, parce que la comédie, c'est le champ des possibles dans une vanne. Quand tu te dis, par exemple, je te dis, putain, j'en ai marre que ma boulangère me dise, et là, tu dois dire un truc drôle. Donc, ton cerveau va se mettre à chercher des possibles de, attends, qu'est-ce qu'elle peut dire, dans quel contexte, machin. J'en ai marre que ma boulangère me dise, sortez de chez moi, la boulangerie est fermée, sortez de chez moi, là, vous m'avez suivi, tu vois, de dire. Je sais pas, si je dis, j'en ai marre que ma boulangère me dise, et tu vas qu'est-ce que tu pourrais me pondre de drôle derrière?
Oui, il me faudrait 15 minutes, moi.
15 minutes? D'accord. Ouais.
Non, je sais pas.
Je teste. On coupera si jamais ça marche pas du tout, mais.
Non, ça dépend, mais je crois que justement, j'ai plus de facilité quand c'est des trucs d'actu, ou des trucs. Les trucs de vie quotidienne, les trucs de perso, je les écris plus lentement. Bah, je pense que c'est des domaines où je fais des liens moins facilement. Par exemple, quand je lis un article ou quand j'ai un fait d'actualité qui me vient, bah. Là, j'arrive à trouver la blague assez facilement parce que j'arrive à faire des liens avec un autre fait d'actualité, une comparaison, machin. Donc, c'est pas des blagues d'un haut niveau. Mais pour moi, tout ce qui est périssable, tout ce qui est sur un événement immédiat, ça n'a pas besoin d'être une blague de ouf. C'est genre, tu fais la blague parce qu'elle doit exister et puis après, tu passes à autre chose. Donc c'est aussi pour ça que j'ai de la peine à garder un spectacle pendant longtemps, parce que j'ai l'impression que si les blagues, je les garde, il faut qu'elles soient hyper bien. Tandis que si je fais juste 5 minutes une fois à Montréal, ça peut être des blagues d'actu qui sont.
Oui, tu les jettes après.
Ouais. Donc, c'est. Une fois, on m'avait fait un test dans une émission. J'avais des, je sais plus exactement. Oui, il y avait des billets. Je les tirais dans un bol et puis c'était 2 noms propres. Et puis je devais trouver une blague avec ces noms propres, une comparaison, un truc. Et puis ça, j'arrivais.
D'accord.
Tu vois, genre c'était François Bayrou et puis Mireille Mathieu. Et puis voilà, je faisais une blague avec les deux.
Une association.
Ouais, mais parce que je sais pas, il y avait des trucs qui se passaient. Mais quand tu me dis ma boulangère. Comme moi, la boulangère, ça m'angoisse d'y aller et de lui parler. C'est des trucs qui me parlent moins parce que je me projette moi
dans
le truc.
J'aime pas quand ma boulangère me dit bonjour.
Quand ma boulangère me dit bonjour, c'est merde.
C'est une blague de Thomas Wiesel, ça. Ouais. Quand tu connais Thomas Wiesel, tu fais excellent. C'est vrai que c'est relou ce moment où t'es chez la boulangère. Elle dit bonjour, après tu dois interagir avec elle.
Ouais, moi, c'est vrai que les gens, des fois, ils se plaignent du déficit d'interaction humain, machin, que tu peux tout commander avec des clics. Moi, ça a vraiment moi, ça a simplifié ma vie. Hein. Le fait que tu puisses commander une pizza sans téléphoner au restaurant de pizza.
Ah, bah, ça fait que je commande des pizzas maintenant.
Ouais.
Maintenant, j'ai le problème inversement, c'est un problème politique. Le fait que quand je commande une pizza sans téléphoner, c'est un mec sous-payé qui se fait exploiter par une grande boîte, fait que maintenant je recommande plus de pizza. Mais à la base, j'étais
moi,
là, c'est très
pratique.
Je
vis avec ce poids. Il dit, est-ce que mes angoisses de téléphoner vont prendre le pas? Non, c'est pas grave.
Moi, j'ai une philosophie, c'est je me dis, je mets un gros pourboire, c'est hors de question. Il pleut et tout, j'y serais jamais allé. Est-ce que pour 4 balles, 5 balles, je mets 4-5 balles et il me livre ma pizza.
Un gros pourboire, 4-5 balles, est-ce que tu gagnes? Je crois pas, non.
C'est quand même un bon pourboire.
Non, c'est un bon pourboire pour un cadre moyen, mais excuse-moi, t'es Ken Kojandi.
Il gagne 10,40€ pour une course.
Ah bah ouais, bah super. Mais 20. T'es Ken Kojandi.
Ouais, mais j'ai déjà mis 20 une fois.
Voilà, c'est bien.
J'ai déjà mis 20, hein, ça m'a...
Ouais, c'est ça.
Et le mec m'a même pas calculé, c'était cool.
5, c'est rien pour toi.
C'est beaucoup pour vous, 20 Je ne réalise pas.
Il a fait une blague dessus.
Voilà, moi j'ai le droit.
Et en plus, j'ai gagné 0 France.
C'est beaucoup, enfin 20, c'est, ça fait, je sais pas, même
non,
pas.
Non, je réalise bien.
Ça fait combien ça fait quoi? Ça fait c'est rien par rapport à 500 villes américaines. Ça coûte, c'est rien. 20, donne-moi 20 villes américaines, par exemple, 20 des plus grandes villes américaines.
Moi, je pense que si je te dis Springfield, il y en a déjà 4.
Malin. En fait, il n'y en a que 16 à apprendre.
C'est clair.
Bah après, c'est genre la Californie, ça c'est facile parce que tu dis Santa et tous les prénoms féminins, t'en as déjà 8. Puis après, tu dis San et tous les prénoms masculins un peu latino, t'en as déjà 5.
Ouais, malin. Il y a en fait, Santa Lucia, San José, San. Ouais.
C'est des associations.
Ouais. Okay. Je suis une fraude.
Moi, on fait un roast ou quoi?
Mais oui, grave.
Viens, on fait un roast. On va faire un roast.
Ah bah ouais, t'as dit qu'on disait du bien des gens. Moi, j'étais déstabilisé, mais s'il faut dire du mal des gens.
Justement,
c'est clac-clac, chaud-froid.
On a fait un roast ensemble à Montreux. La vidéo est disponible sur YouTube.
Et j'ai souvent des gens qui me posent la question, mais tu savais ce qu'il allait te dire, etc.
Ouais,
mais dans quel monde vous vivez?
Genre,
mais attends, le fait que tu, pour moi en plus, enfin, moins toi, parce que toi, t'es dans un truc plus de contrôle de bienveillance quand même. Toi, ouais. Tu veux que tout se passe vraiment bien. Donc
c'est pas contrôle, c'est que je vis mal. Vous vivez mal de décrocher au téléphone. Moi, je vis mal de mettre quelqu'un mal à l'aise.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, moins toi,
je me sens
coupable. Toi, je te vois bien jouer le jeu.
De
c'est vrai, arrête de l'appeler.
Je t'ai même pas appelé, en plus, je t'ai envoyé un message vocal.
Parce que j'ai pas répondu.
Ouais, c'est normal.
Non, mais c'est bon.
Mais en fait, maintenant moi, je vis avec des artistes depuis 15 ans. Donc, je connais toutes les méthodologies. Je dis, Navo, il veut pas qu'on l'appelle. J'envoie un texto, il me répond. Ça, je connais pas encore ton modèle.
Mais je te vois bien jouer le jeu de dire, viens, on se dit pas ce qu'on va l'un l'autre. C'est juste que quand tu regardes, tu comprends que c'est des réponses. Donc, ça veut... tu dis, ils savaient ce qu'ils allaient dire, c'est écrit ensemble.
Ah, oui. Si c'était un roast, donc
un roast. Si là, je te dis, prépare des vannes, j'en prépare, et on se les envoie pendant l'émission, et on se dit pas ce qu'on va se dire,
T'es
ok.
Bah, avec plaisir. Mais
donc,
ça,
quand les gens le disent, c'est pas étonnant.
Mais là, c'était un peu différent comme contexte.
Parce que ça se voit que vous discutez.
C'est un gala, etc. Mais par exemple, à Montréal, où la culture du roast est un peu plus présente, parce qu'ils sont quand même un peu en avance sur nous, sur le stand-up, il faut le dire, et la proximité des États-Unis, dans les festivals, il y a des spectacles de roast, et là, c'est du vrai roast, c'est-à-dire tu prépares tes blagues, l'autre prépare ses blagues, c'est des roast battles un contre un, et là, tu te dis pas, moi j'en ai fait une contre Charles Nouveau, on s'est envoyé de ses fions, c'est monumental, c'est une des meilleures soirées que j'ai passées sur scène de ma vie, j'avais aucune idée ce qu'allait m'arriver dans la gueule, alors j'imaginais un peu que ma mère morte, ma stérilité, mon autisme, tout ça, ça allait venir, donc j'ai pu préparer un peu des répliques à ça, t'essaies d'anticiper les coups, c'est drôle, c'est comme un match de boxe, t'es là, il va me frapper là, donc moi, en réponse, je vais le frapper là. Mais du coup, c'était incroyable de pas savoir ce qu'il allait me dire, et lui, de pas savoir ce que j'allais lui dire. Mais nous, c'était une performance dans un gala où il fallait justement qu'on voit qu'on était potes, c'était pas...
Très vite. Ouais. 7 minutes, clac, 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 clac.
Et puis les gens savent pas ce que c'est un roast. Moi, je sais que les gens sont parfois mal à l'aise parce que quand je vais dans un comedy club en Suisse, souvent ce que j'aime bien, moi, je considère ça un peu comme une salle d'entraînement, c'est que si j'ai des trucs à tester, j'ai des trucs à tester. Si j'ai rien à tester, j'ai pas envie de faire un bout de mon spectacle comme ça dans le vide. Donc j'écris pendant la soirée en écoutant les passages des autres. Soit je vanne leur vanne à eux, soit je vanne leur tenue, leur gueule. Enfin, je fais un exercice de roast, quoi. Puis je viens à la fin et puis je décortique.
T'en as mis en ligne d'ailleurs, non? J'en ai vu 2-3, je crois, en ligne.
Ouais, j'ai retrouvé des vieilles vidéos. Souvent, j'enregistre et je filme.
C'est de la matière, ça, c'est une matière de fou, hein.
Moi, j'aime bien. Enfin, ça entraîne. Et puis après, un jour, ça peut te servir parce que la vanne que t'as faite sur tel humoriste, en fait, tu peux la faire sur tel politicien. Enfin, c'est.
Oui, ou tel humoriste se retrouve, tu te retrouves à devoir faire une intro sur lui.
Oui, ça se recycle. Mais du coup, ça, j'adore. Moi, vraiment, les vannes méchantes, mais je réalise que beaucoup de personnes,
comme pas prêtes, quoi.
Ça les met mal à l'aise, ou ils voient plus la méchanceté que
Le public ou les gens?
Les deux.
Les gens roastés. Parce que je sais qu'en France, on a essayé plusieurs fois de faire des roasts. Et à un moment donné, il y avait des gars connus qui étaient arrivés ou des meufs connues qui étaient arrivées. Ils ont commencé à se faire deux vannes. Ils ont dit non, mais l'émission n'aura pas lieu.
J'ai appris dans cette émission, c'était Baptiste qui racontait ça, que une de ces moutures, parce que souvent, j'ai été approché quand il y a eu des émissions de roast, parce que comme je dis tout le temps que j'adore les roasts, je pense que dès que ça parle de roast, les gens me disent, faut appeler Thomas, et puis moi, je suis tout content. Et une fois, j'ai envoyé des vannes, mais c'était à longtemps.
Commenter quand t'es content pour voir?
Comme ça.
Ah oui, ça c'est
et du coup, il faut que je me réponde. Et du coup, j'ai envoyé des blagues, et Baptiste racontait qu'ils ont lu mes blagues, et c'est ça qui a contribué à annuler le projet d'émission. Je sais pas, mais il l'a dit ici, ça.
Possible, parce qu'on a dû en parler. Parce que moi, je me souviens que c'était même pas les blagues, c'était les questions que j'ai posées sur les thématiques des blagues. Moi, on m'a demandé, est-ce que ça te dirait d'écrire un roast et tout. Et du coup, moi, je voulais les tester. J'ai dit, mais par exemple, ce serait qui? On dit, ce serait Depardieu. Je fais, ok. Et donc, on peut parler de son fils qui est mort?
Bah, moi, j'avais écrit des blagues sur le fils mort.
Ah bah voilà. Et bah, ça devait être le même. C'était celle de Blanche.
Ça s'appelait le Grand en fait. Ring ou un truc comme ça.
Non, ouais, mais en fait, à chaque fois, c'est ça. C'est que quand je dis, moi, je veux bien y aller, mais dites-moi. Parce qu'en gros, ils arrivent en disant, faites ce que vous voulez. Et quand tu dis, faire ce que je veux, c'est ça. Là, ils font, à part ça. Et tu dis, ah, alors attends. Et en fait, c'est ce qu'ils disent, mais non, mais parce que l'agent de tel. Parce qu'une fois que tu passes un ou, une ou deux personnes qui sont bon délire, l'idée, c'est d'en faire toutes les semaines ou tous les mois. Donc tu dis, ok, mais une fois que t'as passé machin et machin qui sont bon délire, ok, ça, je te crois. Genre, on prend Kian, Kian jouera le jeu. Je te crois. Mais après, machin, là, avec qui on va parler? On va parler avec son agent qui va nous dire, non, mais attendez, il est en promo. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas dans la culture francophone d'accepter de se faire insulter. Pour eux, ils se font insulter, en fait. Ils disent, mais pourquoi je viendrais me faire insulter? J'ai peu de raisons.
Alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. C'est juste rions ensemble, de trucs, c'est d'assumer un peu ces.
Et puis, ouais. Aux États-Unis, d'où c'est originaire, ça cartonne. Et notamment parce que les artistes savent exactement ce qu'ils viennent y faire.
Ouais.
Et parfois, ils viennent à un moment de leur carrière où c'est nécessaire. Justin Bieber, son rôle, c'était incroyable. C'était un moment où il était vraiment mal détesté, vu. Sale gueule. Et puis, de montrer qu'il ose se pointer, que tout le monde se fout de sa gueule, rigoler, répondre après, ça l'a beaucoup aidé. Malheureusement, Trump, quelques années avant, c'est ce qu'il avait fait aussi. Il y a des vannes monumentales sur Trump qui sont sorties, mais malheureusement, ça a nourri un peu le truc, ça l'a aidé. Et moi, l'exemple que
Pourquoi malheureusement,
c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il fait. En tant que mec blanc, on devrait être très heureux. Mais
pourquoi malheureusement, c'est le mec qui comprend. le mec des steak Trump dans les années 90, mais qui n'est pas au courant de.
Non, mais il est président des États-Unis maintenant.
Bonsoir.
Si.
Plus pour longtemps.
Bah, si, encore.
Il va devenir
encore 4 ans.
Empereur.
Encore. Ah.
Il est président des États-Unis, je ne savais même pas.
Ouais.
L'exemple que je montre souvent pour voir pour la différence, même que les Américains, genre, dans leur cercle de confort, ils peuvent se faire envoyer des fions monumentaux. C'était Jonah Hill, il avait fait le roast de James Franco. Il avait reçu une shit vanne sur le fait que quand il maigrissait, il était moins drôle, qu'on l'a appelé pour faire un spaghetti western. Il a dit oui à spaghetti. Enfin, des trucs vraiment très très marrants. Il s'en prenait plein la gueule de ses collègues, de ses potes. Il arrive au grand journal où c'était
il a mal pris.
Ornella Fleury. C'est ça son nom, Ornella Fleury.
Oui, c'est ça, Ornella Fleury. Ouais.
Qui a fait une
Miss
vanne.
Météo.
Ouais, qui était dans la posture de Miss Météo, qui a fait une vanne qui était un petit peu méchante sur le physique de Brad Pitt, qui était plus avantageux que celui de Jonah Hill, ce qui me semble être une vérité assez universelle quand même. Enfin, même Jonah Hill doit être au courant qu'il n'est pas Brad Pitt. Et là, il s'était vexé. Et
peu
tout
de gens
monde...
sont Brad Pitt déjà, à la base dans le monde.
Même Brad Pitt,
sont...
l'est moins qu'avant. Donc. Et il y avait eu un méga scandale, genre Ornella Fleury qui insulte Jonah Hill, machin, alors que c'était une vanne méchante, c'était une vanne. Et la même vanne aurait été la plus gentille du roast qu'il avait fait, je crois, 2 mois avant. Mais c'est tout un truc de contexte. Et le roast, c'est appuyé là où ça fait mal. Et à chaque fois, on a envoyé des vannes. Et
ouais,
y a
non,
jamais
parce que le monde français n'est pas prêt.
Mais ce serait tellement bien. Mais notre génération, je ne comprends pas pourquoi on n'y arrive pas.
Notre génération, il faut qu'on soit plus connu. Et il faut que les autres y meurent.
Oui, j'avais un concept de roast. C'était, je suis dead. Imagine, c'est moi qui me fais roaster. Je suis dead, je suis dans mon cercueil comme ça. Donc, tu as vraiment moi comme ça dans un cercueil. J'ai les yeux ouverts, mais je suis dead. Et c'est mon oraison funèbre. On appelle ça une oraison funèbre. Où les gens viennent parler et tout.
Un éloge, ouais.
C'est un peu ça. Et vous faites un peu le roast de moi, mais dead. Et à la fin, je réincarne et j'ai le droit de vous répondre.
Mais tu vas un peu te vexer parce qu'il y a un truc très similaire dans...
Je vais me vexer, dans, j'ai une idée. Hein, comme une
laisse-moi
autre, hein.
Peut-être finir la phrase.
Vas-y, vexe-moi.
Dans Tout est possible de Kev Adams et Gad Elmaleh,
ouais.
il y a une scène où Kev...
Ça me vexe pas.
Ça me vexe. Je sais, mais j'ai dit peut-être. Où il y a l'éloge funèbre de Gad par Kev et l'éloge funèbre de Kev par Gad.
Et il se roast.
Et il se roast. Et c'était un des moments les plus drôles
du spectacle.
Il me semble
qu'il y a des
roasts. Ben, j'adore ça. Quoi.
Il me semble qu'il y a des roasts qu'on m'avait proposé. C'est... Il était mort. Il avait des ailes, je crois.
C'est
un
mais
peu
c'est
le même
moi
truc.
Que t'avais donné ça.
Avec les ailes?
Non, les ailes, non. Moi, c'est dans le cercueil.
Il y avait
envers,
un truc hein. Où, en gros, c'était. Il est mort et lui, il est sur scène avec des ailes et tout le monde en parle parce qu'il est mort.
Mmh.
Donc, il y avait un peu déjà.
D'accord,
cette
ah, bah,
idée.
C'est, ouais, c'est un. Bah,
parce que je pense
moi,
que
c'est un
discours.
Concept qui est marrant, le côté genre, c'est marrant. Visuellement, c'est marrant.
Ouais.
Et tout le monde est en costard, du coup, ça marche, le côté un peu costard. Tu vois,
mais je pense qu'en tout cas, il faut trouver un truc pour.
C'est plus marrant.
Forcer un peu la.
Ouais, d'être cercueil comme ça et de faire. De ne pas pouvoir bouger de... c'est marrant,
moi ça me ferait rien, je désespère pas que maintenant que les gens commencent à être
vous voulez qu'on le fasse
on le fait, allez, on le fait.
Allez, on fait un petit roast là ou pas
ok vas-y
allez, vous voulez écrire des vannes
tu veux pas produire
vas-y.
Un roast on en fait un dans un moment
roast,
on l'appelle un mauvais moment
un mauvais moment un mauvais moment
on reçoit
un mauvais moment point d'interrogation
on reçoit
mais
machin
du
qui vient de passer un mauvais moment
FPKLG
Faire pas kiffer les gens. Ouais. Faire.
Pas fait PF.
Faire FCLG, faire cringer les gens.
Mais ouais, moi je suis chaud.
Vas-y. Vas-y.
Attends, qui est au roast?
Bah, voulez... moi, roastez-moi.
En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de montrer aux gens la mécanique d'un roast.
Ouais, comment ça marche?
Pour voir qu'en fait, il n'y a pas de haine.
Bah, il nous faut 5 minutes.
Parce que je crois que les gens. Je crois que les gens, ils imaginent la haine. Je pense que c'est ça le problème. Culturellement, c'est qu'ils se disent pas. Ils sont partis de quelqu'un, ils ont cherché ses points faibles et ils ont construit autour des points faibles pour faire la vanne la plus marrante possible pour eux sur le point faible. Ils se disent, ils l'aiment pas. Et il a dit ça en cherchant à lui faire du mal. Tu vois?
Ouais, je vois très très bien. Alors que pas du tout.
Mais pour moi, le fait que t'aimes bien ou que t'aimes pas la personne,
ça change rien. Voilà, c'est ça. Mais je pense que
ça
les gens le vivent mal.
Que je déteste ou quelqu'un que j'adore.
Ouais, tu donnes de l'amour pour écrire. Pour elle, déjà, c'est de donner de l'attention quand même.
Ouais, mais non, moi, mais je peux roaster des gens que je déteste.
Moi, je peux roaster n'importe qui pourvu que je trouve un truc, mais c'est pas parce que je l'aime ou je l'aime pas.
En même temps, en plus, on avait déjà écrit.
Ouais, mais vas-y.
Mais je trouve qu'en plus, on roast mieux les gens qu'on aime.
Qu'on aime bien.
Parce que souvent, quand on les aime, on les connaît mieux.
Ouais.
Mais attends, mais faut roaster qui? Ah, faut roaster Kian.
Ouais, mais on a 5 minutes pour écrire, tu vois, ils vont couper.
Oui, on accélérera et tout. On a fait une chanson avec Kairon une fois, donc on a mis une heure à écrire, mais
moi, j'ai un TGV.
Kian, déjà, il y a un truc à faire, tu sais, sur le.
Mais c'est drôle d'écrire devant lui, quand même.
Bah ouais.
Oui, c'est marrant, mais c'est marrant. En fait, pour montrer aux gens un peu qu'est-ce que c'est que le roast. C'est vrai, imagine, je vais couper tellement ça va m'humilier. Genre.
Il invite des gens pour parler de lui. Il y a un truc à faire autour de ça, je pense.
Oui, c'est vrai.
C'est intéressant que tu invites des gens pour parler de lui. C'est ton côté Louis C.K., tu vois, Louis C.K., il aimait bien inviter des gens pour se masturber devant eux.
Mais c'est drôle.
Ouais, un truc comme ça, genre.
C'est un autre humoriste chauve qui se masturbe devant les gens.
Qui se masturbe devant les gens. Ouais.
Ou genre, bref, ça durait combien un épisode de Bref?
Une trente.
Maintenant, un bon moment, c'est 1h30. Faisons Bref, il n'avait pas le temps d'expliquer la vie aux gens suffisamment.
Ouais. Parce qu'on ne le voyait pas assez.
Ouais.
Il trouvait que de le voir que 1 minute 27 sur 1 minute 30, on ne le voyait pas assez.
Ouais. Ça ne modifiait pas suffisamment l'existence du spectateur.
Je pense qu'il peut changer les gens. Ah, sinon, il n'y a pas un truc genre faire une question à la Kian dans un bon moment? Genre, ouais. Thomas,
moi,
en fait,
4 minutes plus tard. Ouais, et toi?
Voilà. Et moi, toi, ça va sinon?
Ah, ok.
Pas toi? Ok.
C'est vrai que je fais ça.
Il l'a fait plusieurs fois déjà dans cette émission.
Mais en même temps, c'est une quête. J'ai une quête du bonheur et je veux savoir ce que font les gens par rapport à moi, ce que je fais.
Non, mais je comprends. Mais du coup, c'est marrant de dire que t'en as rien à foutre des gens. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai.
Ah oui.
Mais du coup, c'est ça qui va être drôle.
Oui, il y a aussi un truc où des fois, Kian, il aime bien t'expliquer des trucs du quotidien, mais très terre à terre et banal. Mais comme si.
Comme s'il avait découvert.
Comme si tu venais de naître
ouais.
à 31 ans. Une fois, il m'a expliqué comment je devais me doucher.
Ouais. Mais ça, c'était par rapport à ton odeur.
Ça à Montréal,
je
ouais,
pense que c'était
mangeait...
par rapport à ton odeur.
Non, c'était par rapport à vous.
On en avait parlé avant. On avait dit, attends, tu veux pas lui expliquer.
Vrai,
je crois qu'il a pas les bases.
Frotte un peu plus, peut-être. Frotte un peu plus sous les bras.
Non, t'as eu 5 minutes de théorie sur le shampoing.
Je suis au quotidien avec lui. Moi, je le vois. Je dis aux gens qu'il faut mettre des choses. Comment faire leurs lacets, comment mettre des chaussures, comment
des fois, t'es
manger.
Je me suis déjà douché. J'ai 31 ans. Ouais.
Mais en plus, quand il t'en parle, on dirait. Bah, en fait, je pense que c'est son côté obsessionnel. C'est-à-dire que la veille, il a lu un truc sur comment planter un clou. Et après, il t'explique comment planter un clou, comme s'il était devenu un expert en clou. Tu vois?
Oui, non, mais
c'est vrai que j'ai des lubies. C'est vrai que j'ai des vraies lubies.
Tu te rends service quand tu te le dis.
Ah oui, non, mais je suis hyper content et tout.
C'est au cas où tu vas.
Et puis les gens ils me disent rien, ils sont là, pas. Genre, ah oui, c'est vrai, ah oui, pour
ouais. Ouais, genre, c'est pas parce que t'as plus de père qu'il faut devenir celui de tous les autres, quoi.
Tiens, ça s'écrit.
Ton père t'a manqué. C'est pas le mien, il est là, c'est bon, tu peux. T'es pas obligé de le faire, je le vois déjà, moi. Je vois encore le mien.
Mon père est vivant, Kian.
J'ai pas besoin de toi, du coup. Dès que mon père meurt, je t'appelle, parce que, comme ça, il pourra me dire comment fermer la scène.
Pas toujours, je t'appelle ou je t'envoie un texto, parce que c'est relou à chaque fois.
Envoie un texto.
Tu vas trouver la force de m'appeler.
Un lien YouTube.
Tu vas trouver la force de m'appeler, bizarrement,
peut-être
là.
Peut-être que le jour où je perds mon père, j'aurai envie que tu m'appelles, tu vois. Pour me dire que tu m'aimes.
Ouais, t'as besoin de l'appeler, tu lui envoies le lien vers un podcast. Tu parles
vers le podcast, enfin, le tuto que t'as vu la veille et que tu nous sers comme si tu l'avais trouvé toi-même. Attends, on n'a rien fait de physique, c'est bien un petit truc physique quand même.
Ouais.
Après.
Mais physiquement, il s'est trouvé un peu.
Après, vu la fréquence à laquelle tu vois tes parents, que tu les perdes ou pas. Ça va changer ton life.
Si je les perds, je vais le savoir après tout le
monde. Putain, ça va faire quoi?
Je vais le savoir après tout le monde, moi, c'est sûr. Tu vas un jour, je vais me pointer, je vais dire ma maman était pas là. On va dire bah oui, mais ça fait un an. Ah, putain, elle aurait pu prévenir, quoi. Mais on a prévenu, on t'a appelé, t'as pas répondu.
Ils regardent les podcasts, genre tes parents?
Non.
Bah ce que tu fais de façon générale?
Ah, je crois, bah non, mais ils s'en battent les couilles.
Ah ouais?
Ouais.
Jamais?
Peut-être de là où ils sont. C'est comme si c'était moi. J'espère que vous me regardez là où vous êtes, d'ailleurs chez vous. À pas me calculer.
Non, c'est vrai que c'est une bonne stratégie qu'il y a, qu'il a eu, c'est que
il a
percé sans avoir le style. Tu vois, s'il avait déjà percé comme ça, peut-être qu'on l'aurait pas considéré comme BG, mais il a percé en étant pire que ça.
Ah, c'est une bonne technique.
Il s'est progressivement amélioré. Puis maintenant,
t'as
les gens
fait le choix
disent,
d'être connu très moche, ouais. Comme ça, vu que t'es moyen, maintenant on dirait que t'es beau.
C'est ça, Kian. Ouais. Franchement, que j'en dis, maintenant, non, ouais, maintenant ça va. Maintenant, il a fait, hein. Ouais, il sait comment s'habiller, il a fait du sport. Tandis que s'il avait percé comme ça, ça aurait été bah, encore un chauve à barbe. Voilà,
ouais, c'est vrai. Et qu'il a pas eu grand chose à faire. Quoi.
Non.
Ah, c'est juste rasé les côtés, c'est tout.
Il s'est rasé mieux.
J'ai rasé les côtés.
Il a enlevé les cheveux là, il s'est rasé mieux. C'est une bonne technique quand même. C'est un peu la technique quand tu mets une photo pas ouf sur Tinder, comme ça au moins quand tu matches, quand t'arrives au rendez-vous, ils disent.
Mais tu matches pas.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que ça, c'était une bonne stratégie.
De ouf, mais c'était prévu depuis le début.
Bien sûr. Bien sûr. On a vu dans le festival de Kian, on s'est dit, à mon avis, dans 15 ans, il y a un truc, parce que là, c'est pas possible. T'avais des chemises très, très grandes.
Je t'avoue, festival de Kian, j'avais 20 euros par émission pour le faire. Hein. Donc, j'avais, en fait, il y avait la bande à Fifi.
On les avait volés devant le studio. Il n'y avait plus rien. Plus rien pour les avis.
Non, mais pour te dire, il y avait la bande à Fifi qui tournait dans le même bâtiment, genre avant. Tu sais, ils faisaient leur sketch là-bas dans ces mêmes studios et ils avaient tout laissé, genre, mais en vrac dans une pièce. Un jour, on ouvre la pièce, on voit les trucs et du coup, on prenait que des trucs qui n'étaient pas ma taille, quoi, qui étaient pour d'autres acteurs. Donc, Tarek Boudali, j'ai mis toutes tes fringues, si tu veux savoir. Et c'était ça, en fait. Je ne m'habillais pas avec mes fringues. On n'achetait rien, en fait, t'avais pas d'oseille.
On a son chien aussi, là, je vois son chien.
Ah putain, il a fait un compte Instagram.
Vous avez déjà parlé de mon chien?
Non, mais moi j'aimerais beaucoup savoir comment il s'appelle.
Elle s'appelle Ness.
Ah, c'est intéressant.
C'est fou.
Ouais.
Un beau tueur.
Un bébé.
Mais voilà. Ness, elle a des parts sur Instagram ou c'est juste toutes les stories où elle est. Non, c'est un hasard.
Mais elle a son compte.
Bah, je sais. Instagram,
quoi. Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai fait deux comptes pour vraiment pas. Pour me pas dire j'ai un chien à tous les gens qui me suivent. Je vais me dire bon, allez, on fait un compte pour le chien. Et comme ça, on sépare les deux communautés. Les gens qui aiment les chiens et moi, bah ils verront là.
Il n'est pas parti du principe que.
Je pense vraiment qu'il y a des gens qui suivent le compte de ton chien qui t'aiment pas toi.
Ah oui, il y a des gens qui ne me suivent pas. Il y a des gens qui suivent mon chien, ils me suivent pas.
C'est fou.
Il y a des gens, ils aiment juste les bergers australiens.
Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils regardent tous les bergers, ouais. Ils aiment suivre des bergers australiens.
En fait, quand tu rentres dans un compte chien, après, ils te proposent de t'abonner à d'autres chiens. C'est comme si les gens c'est comme si sur Instagram les gens s'abonnent à toi et après ils te proposent d'autres mecs seuls, tu vois.
Ouais, c'est comme si t'avais un enfant.
Tu verrais mal si ton chien commence à avoir plus de succès que toi.
Non, j'adore.
C'est comme tu vois si t'as un enfant et que tu fais un compte Instagram à ton enfant, il y a certains pédophiles ils te suivent pas toi, ils suivent que ton enfant.
Donc t'es en train de dire qu'il y a des zoophiles qui suivent.
Bah, c'est sûr qu'il y a des zoophiles.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pour
sûr. Attends, surtout faut trop bonne.
En même temps, moi les pédophiles, les zoophiles, je préfère qu'ils suivent des comptes Instagram de chiens et d'enfants. Innocent plutôt qu'ils fassent des trucs
coupables que les enfants coupables.
Ça c'est un débat philosophique très intéressant.
Bah t'as, ouais.
T'es contre le fait qu'on enlève les poupées d'enfants sur Amazon?
Ouais, parce qu'il y a les poupées d'enfants par exemple.
Ouais, mais je sais pas.
Les poupées sexuelles d'enfants.
La poupée peut pas être traumatisée. Si le pédophile c'est le seul truc qui l'empêche de ruiner la vie de quelqu'un, qu'on lui file sa putain de poupée. Après, je sais pas, je suis pas dans la tête du pédophile et peut-être que il arrive à faire les deux. Mais non.
Bon allez, assez parlé de toi. Revenons sur mon rose.
Mais oui, mais on fera un rose de Ken que j'en ai.
Ah, bah j'adorerais. Mais c'est déjà assez drôle ce
que
vous dites.
Mais le fait que t'adores, ça nous dérange un peu.
Ah non, c'est bien.
Mais non, mais c'était vraiment drôle ce que vous avez dit. Parce que c'est vraiment, j'ai dit, ah les gars, ils m'ont vraiment bien observé. Parce que c'est vrai que moi-même, des fois, je me dis,
ah ouais,
ta gueule.
Ah ouais, bah parle-nous de toi un peu là.
Bah, je vous ai jamais parlé de moi en fait. L'histoire, c'est que je me rappelle, c'était en 84.
Je termine par une question quand même. C'est, ça reste
et, et vous?
Et vous? Et vous en 84 à Reims?
Non.
Vous
Bah merci les gars, merci beaucoup.
C'est fini.
Bah non,
j'ai vu que Reims allait jouer Genève en Ligue Europa. Je pense que tu regardes pas du tout le foot, mais
non, mais
Reims,
moi je viens jouer à Genève pour parler de moi. Je viens jouer à Genève.
Mais c'est pas sûr, hein. Quand?
Ah le 15, non, 15 octobre, c'est pas sûr du tout. T'adores répondre à tes haters sur Internet?
Ouais.
T'adores faire ça?
Je sais pas si j'adore, mais c'est un des trucs que j'ai trouvé pour mieux le supporter, ouais.
En fait, tu leur rentres dedans et tu publies après la réponse parce que c'est kiffant d'avoir du punch.
Ouais, mais c'est un exercice comme un autre. Bah, c'est un peu pareil que les roasts ou comme ça. C'est genre, on m'envoie un fion et j'essaie de réfléchir comment envoyer un fion plus marrant derrière.
Mais est-ce que tu choisis des gens qui ont fait un truc cool comme attaque, ou tu peux prendre aussi une attaque toute bête
Non, c'est vraiment, c'est très auto-centré. C'est est-ce que j'aime bien ma réponse ou pas.
Ok. Peu importe le... C'est pas tu dis, oh, lui, il m'a tellement bien fumé.
Non, même des fois, des gens qui me disent un truc sympa, si j'ai une idée de truc marrant à répondre, je vais le répondre. Et puis en général, les gens le prennent bien parce que c'était dans un bon esprit. Mais oui, souvent, c'est les critiques qui suscitent le plus de réactions chez moi. C'est quelqu'un qui me dit, j'adore ce que tu fais, je sais absolument pas quoi lui répondre, je suis mal à l'aise et j'ai envie de terminer cette conversation le plus rapidement possible parce que je sais pas quoi dire.
Ouais, t'as du mal avec les menteurs, quoi.
Ouais, exactement. Donc les gens qui n'ont pas de goût et les hypocrites. Mais quelqu'un qui m'envoie un sale fion, qui me parle de ma stérilité, du fait de mon judaïsme. Moi, je suis pas juif, mais souvent les gens le croient. Ou des trucs comme ça. Ça, souvent, j'ai envie de répondre, puis j'ai envie de les coincer ou de. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ça doit être un truc psychologique.
Bah, c'est l'exercice qui est rigolo, quoi.
Pour moi, l'exercice est rigolo. Et puis, c'est comme si j'avais appréhendé son attaque, puis je l'avais encaissé, je l'avais rendu, puis après, je passe à autre chose, quoi.
Tu fais du judo?
J'ai eu fait, ouais. Ceinture bleue. Pas très bon.
C'est devenu un bateau.
15h15. Ça fait combien de temps qu'on enregistre, les amis? 1h20. T'as un train à quelle heure? 17h?
Ah ouais, c'est bon.
C'est où, à Montparnasse?
Lyon.
Lyon.
Bah, c'est loin, Lyon. Hein.
Non, c'est loin?
Bah, c'est dans le sud de la. Enfin, c'est vraiment.
C'est sud-est, là, on est dans le sud.
C'est Rhône, c'est le département
ouais,
c'est ça. J'ai appris. Ça, vous apprenez à l'école, mais moi, j'avais cette lacune.
J'ai jamais appris.
Les départements, vous avez jamais appris?
Tu les connais, les départements de France?
Peut-être. Ouais. Peut-être qu'ils m'ont dit, apprends-le. J'ai appris, j'ai fait le contrôle, je l'ai désappris.
L'Ain, c'est quoi, l'Ain?
Tu fais de la place pour l'Ain.
C'est le 1.
Les paroles d'Amsterdam.
Ah, l'Ain, c'est le 1?
Ouais, c'est Bourg-en-Bresse.
Aquitaine?
3, c'est pas le 3.
Aquitaine, c'est pas un département.
Ah, d'accord, tu vois.
C'est la Gironde.
Aquitaine, vous n'êtes pas de l'Aquitaine.
Gironde 33, Bordeaux, préfecture.
Ouais, ça c'est connu, ça. Mais
bah, pas pour un Suisse, je peux te dire que.
L'Auvergne, c'est quoi l'Auvergne?
Par département.
Ouais, tu vois.
Oh, c'est les régions.
Ah le ouais, Marais, et c'est Paris.
Paris, 7-5.
Ok.
7-5, c'est Lille. 5. Lille, c'est la préfecture du Nord. Et Nord, c'est. Ça doit être le.
C'est
le 59, je crois que c'est le 59.
Quand quelqu'un est trop balèze à 99%, quand tu chopes le 1%, tu l'humilies, alors que toi-même, tu sais même pas où est Bordeaux. Je fais, alors on sait même pas où ce que c'est le département.
Coupe du monde 98
C'était Andreas Köpke?
Certainement.
Je pense que c'était lui.
Ben oui.
Ça, c'est comme quand lui, il dit j'ai l'oreille absolue, les gens ils font, ah ouais, c'est quoi cette note? Après, il dit un seul, mais personne peut vérifier.
Moi, je pense que t'avais Ilgner qui jouait au Real, mais je crois que le titulaire, c'était Köpke. Et tu devais déjà avoir Oliver Kahn, mais sur le banc.
Ah, Kahn, c'est sûr.
Mais je pense qu'il était sur le banc en 98.
Et en 2006
2006, c'est Oliver Kahn, le finaliste.
Ou à l'Uruguay.
Ah non, 2002, Oliver Kahn.
Je suis tellement nul en foot et en mémoire. Hein, Uruguay, je passe un très mauvais moment.
Ouais. Bah, c'était déjà Mousselera, mais...
Peut-être déjà Mousselera.
Ou Valladolid.
Moi, tout à l'heure, il n'y a que des gens de monde dans ma tête. Ouais, que je comprends rien. Elle a dit coupe queue, j'ai fait, ouais, ça me rappelle l'affaire Tobit. Meuf qui a coupé la bite de son gars, là. Là, tu as dit mousse les rats. Je pense à quelqu'un qui fait mousser des rats. C'est tout ce qui se passe dans ma tête. Vraiment. Je cherche des vannes, je suis là. Mousse les rats, c'est pas quand Splinter il se douche dans l'épisode 8. Voilà, c'est ce qui se passait dans ma tête.
Oui, je l'ai. C'est Tortue Ninja?
Tortue Ninja.
T'as eu des critiques un peu négatives de ton spectacle?
Jamais. C'est le seul gars au monde.
Et t'as déjà répondu à des critiques. Pardon, excuse-moi, Navo. Tu voulais dire?
Jamais, il a dit. Personne, tout le monde adore mon spectacle.
Et donc...
Mais non. T'attendais à ce que je te coupe?
1, 2, 3, soleil.
J'ai l'impression d'être sur Zoom. C'est pas insupportable ça, Zoom, quand il y a le petit décalage qui fait que juste le moment où t'arrêtes de parler pour laisser la personne parler, ouais. Quand tu reprends, la personne reprend aussi.
Genre t'éjacules et c'est au moment où il te montre son dessin qu'il a fait parce qu'il trouve que t'es le meilleur tonton du monde. Ça m'énerve.
J'arrive pas des fois.
Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans la vie de tous les jours, c'est il y a un timing dans les silences, mais un timing totalement tacite. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé de faire t'es avec quelqu'un, tu te tais et ça fait. Et tu reprends au même moment, mais au même moment quoi. Et pourtant on s'est pas parlé, mais il y a un timing tacite.
Et en fait, il y a un métronome.
Ouais, il y a un métronome, il y a une pulsation.
Mais c'est en fait, j'ai remarqué avec les chansons. Tu croises quelqu'un, puis tu essaies d'aller d'un côté, d'aller de l'autre, d'aller d'un côté,
oui,
d'aller
c'est ça.
De l'autre. C'est un peu le même.
J'ai remarqué avec les chansons que t'as dans la tête, où tout d'un coup, on a tous les deux la même chanson dans la tête, et puis il y a un blanc, et on fait hop, et on reprend le morceau au même endroit, la même parole, le même truc.
Une sorte de timing, ouais.
Ouais.
Je pense que le timing comique, c'est quelqu'un qui respecte la pulsation naturelle d'un... Il établit une pulsation, il claque des doigts, j'adore claquer des doigts, ça tu verras d'ailleurs.
Tout de suite l'extrait de bloqué.
Bloqué.
Et après, tu termines avec, mais du coup, je fais quoi avec mon pote qui pue? Rien, tu subis. Putain, le racisme, c'est relou. Tu vois, faut que ce peps là, faut que les mots-clés soient là. Tu les as maintenant, on y go.
Ok.
Comme vous voulez.
C'est rigolo.
Mais c'était trop marrant. Genre, le gars, je suis un peu perdu en tête, tu fais. Mais mon gars, c'est potable, pourtant, c'est facile.
Racisme, non, mais c'est les mots-clés. C'est les mots-clés, en fait. Plus de.
Deuxième as.
Après, hop, conclusion, peps, on y va.
Moi, je voyais que des doigts qui claquaient.
Où il y a les meilleurs claquements de doigts de.
D'un c'est dommage, parce que là, on a presque tout à l'heure dans le presque tout placé, mais il manque encore quelques œuvres de l'univers muscu au Kojandi, je crois. On n'a pas parlé de Serge Lemito.
Non, mais parce qu'on est fâché là avec Jonathan Cohen, on lui parle plus.
Ah ouais, à cause de la polémique en ce moment là.
Ouais, c'est chaud. Ah oui. C'est bon de dire la polémique en ce moment, comme ça marche peu importe quand on le diffuse, les gens iront vérifier.
Non, mais on s'est rendu compte que ce qu'il racontait, c'est des cracks, quoi.
Il y a une polémique sur leur film.
Mais en fait, c'est un gros menteur.
Jonathan Cohen ?
Ouais.
Mais il s'appelle même pas Serge.
Ouais.
C'est un acteur.
On aurait dû faire le lien quand on s'est rendu compte qu'il s'appelait Jonathan et pas Serge.
Ouais, en plus, t'es marqué sur la déclaration d'embauche.
Quand tu le payais, ouais.
Bah ouais.
Mais vous êtes naïf, vous voyez le meilleur chez les gens.
T'as déjà eu des grosses critiques sur ton spectacle ?
J'ai une critique. La seule critique récurrente, c'est que j'ai la fin de mon spectacle, c'est tout un truc sur la digestion et le caca, etc. Et puis ça, il y a des gens que ça fait pas rire et qui trouvent ça vulgaire et bas et tout ça. Et ça, je le conçois que ça fait pas rire certaines personnes. Moi, je trouve ça très drôle. J'ai eu des déçus parce que c'est un spectacle qui est assez autobiographique et qui parle un peu des mêmes choses dont on a parlé ici. Je parle de mes listes, je parle un peu de mon cerveau et de ma façon de vivre avec ça. Et les gens qui sont venus à mon spectacle en voyant les vidéos où je vanne des PDG, où je suis un peu
oui,
je critique l'UBS, tout ça, ils pensent que ça va être surtout quand je viens jouer en France où parfois les gens ont vu deux vidéos, ça leur a donné envie de venir voir le spectacle et ils connaissent que ça. Et ils ont l'impression que ça va taper sur Macron, que ça va parler des gilets jaunes, et puis c'est pas du tout mon spectacle. Bah là, il y a des déçus, parce qu'ils s'attendaient pas à avoir 1h20 de psychanalyse sur scène.
Il y a pas des gens qui sont venus te voir et disant, on croyait que c'était l'affiche de Cannes qu'aujourd'hui, mais en fait, c'était un autre spectacle d'un autre gars qu'on connaissait pas.
Non, parce que t'as pas inventé
la même affiche.
Le fait d'être triste sur ton affiche.
Ah, ouais, c'est vrai que.
C'est pas vrai, toi t'as un café.
J'ai le droit de roster un peu aussi, j'ai le droit
c'est
de roster.
C'est vrai que l'affiche, vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, clairement.
On va appeler la même photographe, on va faire le même travail.
Bon, déjà. Le fait que vous voliez ma photographe à Paris.
À la base, c'était là.
Déjà qu'il y a plusieurs meufs.
C'est une photographe lesonnaise, Laura Gilly, qu'on salue, qui est hyper cool. Et
on rigole, Laura, il n'y a pas eu de plagiat du tout.
Elle commence à faire des photos à Lausanne. Nous, on fait pas mal de photos ensemble. D'un coup, elle est à Paris et tous les humoristes ont des photos d'elle. Là, c'est un peu moi qui l'ai mal pris.
C'est vrai.
Donc, il y a plusieurs meufs avec qui tu as couché, qui sont venues nous dire que t'avais complètement plagié notre programme.
Ça, je pense pas.
Dit-il avec une assurance qui m'émoustille.
Non, mais je crois qu'à part toi et moi, personne n'a remarqué que nos affiches ressemblaient. Mmh. Et celle de Charles Nouveau.
C'est vous qui m'avez appelé, moi j'étais tranquille chez moi. Hein.
Ouais, mais c'était juste pour dire.
À la base, j'étais chez moi, on fait ouais, désolé pour l'affiche.
Quoi?
Ouais, enfin, ah je l'ai vu, un peu circonspect comme n'importe
quoi. Quand je l'ai vu, j'ai dit non, mais là, c'est n'importe quoi. Ah, vraiment, je dis bah, c'est
j'ai plus qui a tiqué. C'était peut-être Laura en premier qui a dit que ça ressemblait, mais d'ailleurs, je me
trouve que ça ressemble beaucoup.
Mais moi, je trouve pas. Mais c'était juste pour être
dites-le dans les commentaires.
Allez voir. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, abonnez-vous à la chaîne.
Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai une chaîne maintenant.
T'as une chaîne, c'est vrai?
Bah, j'étais obligé. Enfin, j'ai une
T'as
chaîne
mis
depuis
ton spectacle
longtemps. J'ai mis mon ancien spectacle, ouais, mon premier spectacle. Puis pendant le Covid, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai fait des vidéos.
Quand je te demandais, est-ce que tu as eu des articles de presse négatifs sur ton spectacle?
Est-ce que tu as eu des articles de presse?
Non, ils devaient venir, mais ils n'ont pas pu venir. Non, quand j'étais à Paris, j'ai eu plutôt des bonnes critiques.
Ouais.
Et puis en Suisse, le problème qu'on a eu en Suisse, c'est que la date pour la presse, c'était la moins bonne de la tournée, je pense. Parce qu'on a fait... On a fait la première médiatique en même temps que celle où j'ai invité mes proches. Il y avait du coup... C'était une erreur de notre part, mais il y avait 200 personnes, dont 100 invités. Et du coup, 200 personnes, c'est pas, peut-être pas assez. Et puis, 100 invités, c'est beaucoup trop.
C'est un zénith en Suisse, non?
C'est un peu ça, ouais.
Bah oui, même en termes de tarifs. Tu gagnes la même chose que...
Non, mais on avait de la peine à trouver une salle pour faire ça. Et du coup, j'ai pas eu des critiques mauvaises, mais je pense que les gens auraient peut-être écrit des meilleurs articles s'ils étaient venus une autre fois. Parce que c'était... Par exemple, parler aux gens, c'était compliqué parce qu'une personne sur deux, je la connaissais.
D'accord.
Et puis j'ai des petits moments où j'aime bien parler aux gens, mais parler à des gens que tu connais depuis la scène, c'est mort.
J'avoue, c'est bizarre, ouais.
Donc, non, j'ai pas eu des... Non, les critiques sont plutôt bonnes. Je crois que les gens sont un peu surpris parce que justement, la plupart des gens connaissent plutôt l'aspect chronique, blague d'actu, machin, et il n'y a pas du tout ça. Dans mon ancien spectacle, il y avait un mélange un peu des trucs plus personnels, plus sérieux, avec des trucs plus actu. Et là, j'ai enlevé toute l'actu. Je me suis dit, l'actu, je l'ai fait dans les médias, sur Internet. Et puis,
tu fais un rappel à la fin, à la rigueur.
Qu'est-ce que je fais en rappel? Non, je fais au milieu du spectacle, à un moment donné, je dis, ah, j'ai regardé l'actu de votre bled. Puis là, je fais des blagues d'actu sur leur bled. Mais c'est une espèce de petite séquence un peu autonome au milieu du spectacle. Mais du coup, je pense que les gens sont surpris parce qu'ils apprennent plus de choses sur moi. Et je suis plus authentique, plus à l'aise sur scène. Et je crois que ça plaît. Ou en tout cas, si ça plaît pas, ils osent pas me le dire parce qu'ils sentent que c'est un truc assez perso. Donc
ouais.
J'ai pas aimé quand tu parles de ta mère. Enfin, c'est plus dur.
Ça, c'est l'autre spectacle. Mais oui, effectivement. Non, il y a des gens qui disent, je comprends pas pourquoi tu parles de ça sur scène. Mais je pense que t'as eu ça aussi. Pourquoi tu parles d'un truc triste sur scène?
Ah bah, le Parisien en 2016 parle de la mort de son père, c'est inadmissible.
Ah ouais?
Bien sûr.
C'est eux qui l'avaient tué aussi. C'est le journaliste qui l'avait tué. Donc, il était un peu jugé parti.
Ouais, ça fait rouvrir le dossier et tout.
Non, mais genre, t'as parlé. En fait, ils avaient titré Bref, pas drôle.
Ah, ça, c'est dur.
Bon, en fait, c'est marrant, c'est que quand ils mettent Bref quand ils veulent taper un peu sur moi. Ils mettent Bref, pas drôle.
Souvent, quand même.
Ouais, mais quand les articles positifs, ils mettent pas Bref.
Ah, oui, parce que je pense qu'ils sont passés à autre chose. Ils disent, ouais. Non, c'est Kian Kojandi, j'ai été séduit par ce spectacle.
Ouais, peut-être, mais Bref, pas drôle. Ouais.
Bah, moi, l'avantage, c'est que j'ai pas eu de succès avant. Mais c'est lequel
Bref, pas drôle, c'est celui
avant
où
et pendant, hein, t'inquiète,
il parle de la diatribe.
Tu auras peut-être un succès après.
La diatribe, c'est dans celui-là? C'est dans Bref, pas drôle?
Ah non, c'est l'autre, ça, c'est le Figaro.
La c'est quoi?
Diatribe d'une heure trente sur son pénis.
Bah, là, tu viens de décrire le stand-up moderne.
Ouais. C'est juste la personne ne connaissait pas le stand-up.
Il faut clarifier, là, parce que j'ai pas mal de spectacles en tête, dont le mien.
Mais ce qui est marrant, c'est que le Parisien m'a titré pas drôle, et 3 ans après, j'étais le spectacle de l'année élu par le Parisien. Donc, tu
avec
vois,
le même spectacle?
Non, d'autres spectacles.
Ouais, tu vois, grâce à eux, tu t'es amélioré.
Oui, mais ouais, bah ouais, Parisien, c'est ça. Pas... Je me suis dit, putain, je suis pas drôle, faut que je travaille.
Un mec ou une nana, le Parisien.
Oui, mais c'est beaucoup de pouvoir pour une seule personne.
Ça m'a semblé bizarre, parce que l'article... Donc c'est peut-être Parisien, je les confonds, parce que c'est toi qui les lis tous les jours en pleurant, moi je l'ai lu qu'une fois.
C'est pas vrai.
Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est très bizarre, parce que ça m'a ramené au fait que c'est qu'une seule personne, parce que la personne se plaignait du fait que tout le monde riait. Et je me disais, mais en fait c'est bizarre, parce que ça veut dire qu'en tant que critique, t'es pas du tout un journaliste qui rend compte de ce qui se passe, parce qu'en gros la personne disait, c'est nul, mais apparemment tout le monde aime. Tu vois?
Bah là c'est mal faire son job.
Bah, pour moi,
c'est
j'étais
ça,
là.
Ça,
bah,
non,
sur ce coup,
moi,
bah, si.
Attends, je vais te la lire.
Parce qu'en fait, pour moi, ça ramenait.
Je vais te la lire, elle est marrante.
Non, mais c'est intéressant parce que du coup, d'un coup, tu dis, mais oui, c'est vrai que moi, quand je lis une critique, je me dis, Télérama n'a pas aimé. Mais en fait, c'est pas Télérama qui a pas aimé. C'est une personne qui peut même, pour moi, elle a limite mieux fait son job, la personne qui a dit, et apparemment tout le monde aime, parce qu'au moins, elle te tient au courant. Mm-hmm. Tu vois?
Ouais.
Là, il y a un truc où tout à coup, ça m'a ramené à ça. Je me suis dit, mais en fait, la personne, ouais, elle est venue dans
du journalisme
salle,
d'opinion. C'est que
tout le monde a kiffé sauf elle. Et elle a juste donné son opinion personnelle, quand bien même elle a vu que les gens étaient satisfaits du produit. Donc, tu vois, il y a un truc un peu bizarre dans la critique.
Il y avait une standing ce soir-là, hein. On avait eu deux d'ailleurs.
Dans la critique, il y a un truc un peu chelou.
Alors, Kian Kojandi à nouveau sur scène, bref, passez votre chemin. Genre, c'est même pas, ah, on n'aime pas, mais bon, peut-être que c'est, n'y allez pas. Censé offrir une bonne soirée, titre de son nouveau spectacle, donné à l'Européen.
Censé offrir une bonne soirée.
L'humoriste ne tient pas sa promesse et n'amuse que ses fans. Ça veut dire que la personne, elle a fait un questionnaire à la fin, savoir qui était fan et qui n'était pas.
Et surtout, c'est cool d'amuser ses fans.
Non, mais il
n'y
a que
le principe
les fans.
De... Non, mais en même temps, c'est le principe.
Oui, non, mais que les fans.
Mais tu sais, je pense qu'ils sont fans parce que tu les amuses.
Oui, à la base, oui.
Tu vois, oui, c'est ils ne sont pas fans de... Je ne pense pas qu'ils disent « j'adore sa barbe
». J'avoue.
On amuse que ses fans, tu fais « ça tombe bien, c'est vraiment ce que je veux faire ».
On se faisait une joie de découvrir le nouveau spectacle de Kian. La déception a été à la hauteur de nos attentes. Le créateur, avec Bruno Muschio, dit Navo, qui fait sa première partie de sa soirée de la série Bref, se repose sur ses lauriers. Il promet pourtant une bonne soirée, cela a été le cas en 2016 avec Pulsion. Donc c'est une personne déçue.
Mmh.
Un stand-up où le garçon d'origine iranienne passait en revue les petites choses de la vie avec générosité. La chose de la vie, il y avait vraiment 5 minutes sur les choses de la vie, mais ok. Aujourd'hui, âgé de 36 ans, il n'arrête pas de le répéter, il semble avoir fait le tour de la question, se contentant d'une histoire autour d'une sortie en boîte avec un copain qui l'a hébergé à Paris et de sa jolie colocataire, ça n'en finit plus. Franchement, on est à 8 minutes là, franchement, t'es dur. Vous voulez connaître la suite? Interroge Kian Kojandi. On se retient de répondre non.
Voilà,
celle-là, elle est marrante.
C'est la rebelle.
J'ai bien aimé celle-là.
Attends, la suite. La salle, elle, est au comble de la joie. C'est-à-dire vraiment, elle voit... Ah, mais pourquoi on rigole?
Pourquoi tout le monde aime, sauf moi?
Les adeptes de la série de Canal ont grandi avec l'humoriste. On est sans doute trop vieux. L'humoriste reprend le ton et le rythme
pas mal.
De Bref.
C'est qui? C'est Figaro?
Ouais.
C'est pas mal de mettre « on est sans doute trop vieux ».
Ouais, c'est bien. C'est ce qu'on a mis d'ailleurs
le
sur la
Figaro.
Fiche. On a mis sur l'affiche « on est sans doute trop vieux » le Figaro. Moi.
Moi, j'aurais mis passer votre chemin, Le Figaro.
Non, mais Le Figaro qui dit on est sans doute trop vieux, ça donne envie d'y aller, moi, je trouve.
Oui. Bah oui, bah, bah oui, c'est bien. Mais Kéron avait fait ça avec Télérama, non?
Ouais, c'était marrant. Ouais. On n'aime pas. Qui ont trouvé son sujet, mais ne peut s'empêcher de crier aussi, et l'intégralité de ces mots n'arrive pas clairement à nos oreilles. La forme ne compense pas le fond vaseux. À son habitude, toujours secondé par Navo.
Ça, c'est exactement ce que dit le médecin à propos de son sperme. La forme ne compense de... C'est quoi? La forme ne
compense pas le fond,
ne compense pas le fond vaseux. C'est exactement ce qu'elle t'a dit.
À son habitude, toujours secondé par Navo pour l'écriture des textes, Kian, que j'en dis, glisse quelques aphorismes de son cru. L'essentiel est d'être heureux dans sa propre existence. Mais on l'a pas dit, ça. Vieillir, non, vieillir.
Peut-être qu'elle se parle à elle-même.
Ah, peut-être.
C'est un truc qu'elle a gardé. T'sais. Elle était très. Il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas que
c'est. C'est elle, c'est une dame. Vieillir, c'est perdre des proches et continuer à vivre quand même. Je trouve ça plutôt une bonne
bah oui, mais en même temps, c'est toi. Donc,
ouais. Mais on n'a pas le temps d'être.
J'espère que tu trouves ça bien. Ah, sinon, bien, c'est une erreur d'avoir laissé. Si tu trouves ça
moi,
nul.
J'aime beaucoup.
Ah, moi, je trouve ça nul, mais
la seule phrase qu'il a trouvée bien dans l'article pour l'instant, c'est celle qu'il a écrite.
Ça ne m'étonne pas.
Mais moi, je trouve que l'article, il est vraiment écrit, il est marrant, en fait. Mais on n'a pas le temps d'être touché, il se noie dans une diatribe tout entière consacrée à son pénis.
Ça, j'adore.
Ses digressions sont en dessous de la ceinture, c'est cru et même pas drôle.
Oh, même pas
ouais,
drôle.
Là, c'est vraiment 12 ans et demi.
À la sortie, ses fans se précipitent pour faire un selfie ou avoir un autographe de son livre Pulsion, un spectacle graphique illustré. Au préalable, leur idole n'a pas manqué de se faire photographier pour enrichir son compte Instagram. Bref, passez votre chemin. Et je peux te dire que mon compte Instagram, maintenant, il est grave enrichi.
Non, alors ça, j'ai jamais eu. Mais je vais inviter cette dame à mon spectacle.
Enfin, moi, j'aime bien. Moi,
non, mais on sent la frustration de la personne qui n'a pas compris, qui n'a pas aimé ton spectacle et ne comprenait pas pourquoi elle était la seule ou une des seules à pas aimer dans la salle. Et puis,
du coup, elle
l'exorcise comme ça. Mais bon, après...
En fait, c'est même pas ça. Elle n'a pas aimé. Je pense qu'il y a... Non, mais il y a certainement plus de gens. Alors, je te disais de te le dire, parce que en tant qu'artiste, ça doit te faire de la peine, mais sache-le. Il y a plus de gens qui t'aiment pas que de gens qui t'aiment. Enfin, majoritairement, il y a que des gens qui s'en foutent.
Mais bah,
après, il y a plus de gens qui t'aiment pas que de gens qui t'aiment, moi, je pense. Et c'est juste que, du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais c'est bizarre, parce qu'elle a le droit complet de pas aimer. Mais est-ce que son travail, c'est quand même pas de dire que les gens étaient contents?
Bon, elle le dit, mais à chaque fois.
Oui, mais elle le dit, mais il y a écrit passer votre chemin et nique ta mère. Tu vois, il y a un truc, je dis, mais est-ce que le plus important, c'est pas... C'est-à-dire que si je vais... Si c'est du journalisme, tu vois, il y a un truc bizarre. Si je vais en Syrie et que je passe une excellente journée, mais que c'est la guerre, je vais plutôt expliquer que c'est la guerre. Je vais pas dire les... Franchement, je suis arrivé à l'aéroport, c'était super, le cocktail était très bon.
Le taxi, c'était bien organisé.
Le taxi m'a amené à destination. Mais je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est la guerre.
Avant, c'est le problème des critiques, de certains critiques qui pensent peut-être qu'ils sont un public plus important que le reste du public de la salle. Et donc, que si les gens aiment, c'est qu'ils ont mauvais goût. Ouais. On a ça souvent dans la littérature. Moi, je connais très peu la littérature, mais les gens qui vendent beaucoup de bouquins, les critiques disent, bah, c'est, ils vendent des bouquins, donc moi, j'aime pas. Enfin, c'est pas aussi binaire que ça, mais il y a un truc un peu, les gens aiment, mais c'est de la merde. Mais
moi, ça m'a fait réfléchir aux critiques positives. Je me dis, mais en fait, rien n'a de sens dans ce
putain
de monde.
C'est à peu près.
Parce que la personne qui dit, c'est génial, elle, ça se trouve, elle peut s'asseoir avec que des gens qui détestent.
Oui, et puis du coup, elle sera encore plus vindicative.
Et te dire, c'était génial, même si les gens n'ont pas aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, mais toi, après,
les gens sont sortis de la salle
et tu te fais yèche. Je dis, mais moi, en fait, je suis pas comme toi, je suis comme les autres.
Bah, il faudrait trouver la critique qui a les mêmes goûts que soi-même.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, par exemple, pour les films comme ça, je vais sur les agrégateurs parce que tu te dis, bah, peut-être que si tu prends 12 critiques ensemble, bah, il y a plus de chances que.
Bah, mais Télérama est venu nous voir en rodage et ils sont venus nous voir plusieurs fois. Elle nous a interviewé plusieurs fois. On a fait des dîners avec la personne parce qu'elle est vraiment fan de la.
On l'a payée et elle a adoré. Ouais.
Non, elle est fan du stand-up. Elle voit comment on écrivait. Elle est venue voir. Elle est venue voir le spectacle. Tu vois, il y a eu des articles qui étaient vraiment travaillés, quoi.
C'est Rosana.
Ouais, Rosana, qui fait un super travail dans l'humour généralement. Et qui est plutôt passionné de stand-up et de mécanique comique. Après, sincèrement, c'est pas du tout. Moi, ça m'a pas flingué du tout. Hein. Vraiment, j'ai pas du
mais
tout.
Mais tu pleurais.
En plus, vraiment, on en a rigolé, quoi.
Tu as acheté 8 exemplaires, tu les as.
Mais c'est dans le
enflammé.
Sens. Il faut savoir.
Il a essayé de racheter tous.
Bah, j'ai acheté les actions, je suis majoritaire chez Figaro.
Patrick Drahi n'est plus là.
Non, mais j'ai, dans le sens, c'est pas grave, c'est le jeu, quoi. On peut t'en censer, faut pas dire ah ils ont raison de m'en censer, ah ils me détruisent, ah ils ont tort de me détruire. Ça va dans les deux sens, c'est genre bon bah c'est comme ça, c'est partie du jeu. Mais je sais que c'est la carrière qui m'a amené ce recul, parce que sinon ça m'aurait démoli, il y a 10 ans ça m'aurait démoli ça.
Mais je trouve qu'il y a un truc particulier avec le stand-up aussi, et je ressens ça plus peut-être en France où vous avez des clics bien établis avec du théâtre un peu plus traditionnel, du cinéma français machin, c'est que le stand-up et le succès qu'a le stand-up fait un peu des envieux et crée un grand nombre de mépris. Enfin, le stand-up en France n'est pas tellement respecté. Et dès qu'il y a quelqu'un qui...
Ouais, ça ressemble au rap à l'époque. Ouais, ouais, ça se passe comme pour le rap.
Genre, dès qu'il y a quelqu'un qui transcende un peu le truc et qui s'impose, on va essayer de l'extraire du stand-up pour le complimenter. Haroun, Farid, Blanche, on va dire...
C'est MC Solar.
Ça change du stand-up, c'est pas vraiment du stand-up, ça se démarque.
MC Solar, ouais, c'est ça.
Ouais. Et ça, je trouve dommage de pas voir qu'il y a une nouvelle forme artistique qui a plein de choses différentes. Certaines vont te plaire, d'autres pas. Et de dire, ce qui me plaît, c'est pas du stand-up, et ce qui me plaît pas, c'est du stand-up. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a ce réflexe parmi, c'est peut-être un peu générationnel, mais une partie des journalistes, une partie des humoristes d'un certain âge aussi, qui vont dire le stand-up, c'est de la merde. Ça, on l'a quand même entendu. Et ça, je trouve assez dommage de pas voir la richesse et la diversité, et de pas se dire, bah, c'est mon avis. Visiblement, le public en a un autre, parce que quand même, le stand-up a quand même bouffé une part de marché assez importante. Mais je pense qu'il y a une peur chez ces gens de pas réussir à s'adapter. Et d'être largué.
Nous, on aura la même chose dans 30 ans.
Bah, sûrement.
Avec le flux qui va arriver. Et on sera
ça dépend. Je pense vraiment que ça dépend si tu dis. En fait, si tu arrives toujours à envisager. Tu vois, pour moi, ça existe. C'est pas logique, quelqu'un qui dit j'aime pas TikTok. Ça, tu peux pas ne pas aimer TikTok.
Parce qu'ils comprennent pas.
Qu'est-ce qu'il y a dedans que tu aimes ou que tu aimes pas. Tu vois, il y a vraiment ce truc où tout d'un coup, un genre, tu dis que tu l'aimes. Pour moi, ça revient à dire j'aime pas la musique.
Moi, j'aime pas trop la musique.
Oui, mais il y a forcément de la musique que t'aimes.
Mais évidemment, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
C'est le dire j'aime pas le stand-up, c'est trop large. Peut-être qu'au tout début, quand tout le monde appelait stand-up trois humoristes du Jamil Comedy Club, ok, t'aimes pas ces trois-là, tu peux dire j'aime pas le stand-up tel qu'on me le montre. Mais là maintenant, tu dis bah c'est pas possible de pas aimer le stand-up. De dire, c'est un contresens de dire j'aime pas le stand-up, mais j'aime bien Blanche. Ça n'a pas de sens.
Bah, absolument pas. Mais il y a des gens qui disent j'aime pas l'humour.
Pour moi, c'est l'équivalent.
Si, il y a des gens qui disent j'aime pas l'humour.
Claire.
Ou les humoristes me font pas rire, c'est ça, genre.
Ouais, ou j'aime pas les humoristes, mais même j'aime pas les humoristes, c'est déjà un truc, j'aime pas l'humour, c'est encore autre chose.
Personne dit j'aime pas l'humour, qui j'aime pas l'humour.
J'aime pas rire.
Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Indian Matchmaking, qui est assez incroyable, c'est sur les mariages arrangés en Inde et chez les Indiens aux États-Unis, mais les Indo-Américains. Et il y a une nana qui cherche l'amour et qui dit dans ses critères, faut pas qu'il soit drôle. J'aime pas le sens de l'humour, j'aime pas les blagues, faut pas qu'ils soient drôles. Ouais. C'est rare, hein. Il y a plus de gens qui aiment rigoler que de gens qui n'aiment pas rigoler, mais il y a des gens qui détestent les blagues.
Je sais pas, ça génère. Mais après, peut-être qu'elle déteste réellement les blagues, et dans ce cas-là, juste, elle a raison de le dire. Ouais, quelqu'un qui dit j'aime pas le stand-up, et pour de vrai, il déteste tout ce qui existe dans le stand-up,
c'est très
il a raison de le dire, mais la plupart du temps, il dit j'aime pas le stand-up, mais j'aime bien Blanche. Et tu dis, c'est comme si tu me disais j'aime pas les Arabes, mais toi ça va.
Ouais, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui le disent
aussi. Hein. C'est la même erreur, en fait. Pour moi, c'est la même erreur de dire.
T'étais pas pareil, toi.
Non, mais c'est de la méconnaissance. C'est mettre tout le monde dans un panier, puis extraire du panier les gens que t'aimes bien pour continuer de critiquer le panier.
Ouais. En disant que c'est forcément parce que c'est pas dans le panier. Au lieu de te remettre en question sur le panier que t'as fait, de dire c'est forcément pas dans le panier, puisque j'aime. Qu'apparemment, c'est moi qui définis le panier.
Est-ce que t'as passé un bon moment?
Et alors, est-ce que t'as passé un bon moment?
Mais écoute, j'espère qu'on a FKLG.
J'espère aussi. Est-ce que je peux me permettre de t'offrir un abonnement MyCanal?
Tu fais ça?
Ouais.
Bah ouais.
Avec plaisir alors, mon pote.
Putain, moi je pensais pas avoir un cadeau.
Dis merci.
J'ai dit merci, non?
Bah ça fait plaisir.
Alors merci beaucoup.
Merci MyCanal.
J'ai fait beaucoup d'auditions ratées chez Canal+, mais j'ai enfin quelque chose de Canal.
C'était époque Canal ou époque TMC? Ta brève apparition
Quotidien, j'ai fait
quotidien.
Tout début de TMC. Ouais.
C'était TMC.
Mais époque Canal, j'ai fait deux fois des auditions un peu bizarres qui n'ont absolument rien donné, mais je pense que c'était assez judicieux de leur part sur ces auditions-là. Je pense que si les vidéos sortent, on comprendra pourquoi j'ai pas été pris. Mais j'avais fait l'émission d'Ali Badou, là où était barré avant de partir, la nouvelle édition.
Ah oui, la nouvelle édition.
Et puis...
Où était barré avant de se barrer.
Oh, excellent. J'ai fait aussi un truc l'année d'après à chaque fois et puis c'était horrible, c'était très gênant, sans public, machin, j'ai un traumatisme de ces auditions-là.
Et le bachelor, j'ai un traumatisme aussi. Parisien. Bachelor est pas pris.
Le journal du Hard, je sais pas aussi. Mais j'ai un traumatisme parisien en général, mais Boulogne, c'est quoi, c'est à Boulogne-Billancourt?
Oui, c'est souvent à Boulogne, ouais.
Ouais, alors ça, c'est ton endroit
en particulier. Les studios de télé sont souvent vraiment à Boulogne.
Ouais, Boulogne, c'est dur.
Pour moi, Paris, c'est des auditions ratées, des projets incroyables comme les roasts qui ne se font pas et puis on me rappelle plus. Et puis des transports en commun. Voilà.
Aucune joie?
Peu. Non, il y en a quand même, mais peu.
Et quelques orgasmes?
Ouais, un peu. Enfin, j'ai une copine à Paris.
Des orgasmes.
J'ai une copine à Paris pendant
un an. Oui, des orgasmes pour toi, on veut dire. Pas pour elle, on sait bien que...
Ah, non, on sait, elle vient la semaine prochaine.
On sait où elle les a eues et c'était pas là où t'étais.
On a créé une bonne boutique.
Oh,
on t'offre ce magnifique t-shirt qui est disponible.
Ça ira bien avec les autres.
Ça te plaira. Je sais que t'aimes bien les t-shirts avec des dessins dessus. Et voilà, un collector de bref. J'ai fait une dépression. Mais ça, c'est pour toi, Tom, pour te recevoir.
Merci.
Merci d'être venu.
Avec plaisir, ça tombait bien. Je suis vraiment à Paris, mais j'étais content d'être chez vous.
Est-ce que t'as un truc à recommander, un truc que t'as vu, une série, un documentaire?
Moi, j'adore les documentaires sportifs, ça va vous étonner.
C'est bizarre, ça.
Sur Netflix, il y en a vraiment des biens. Il y en a un que je viens de terminer, c'est Last Chance U. Ça parle du football universitaire américain, donc du football américain, mais dans les unis. Et c'est souvent... Et là, ils vont dans des universités qui ne sont pas les universités où ils passent 4 ans, mais des espèces d'universités passerelles. Je ne sais pas si vous avez ça ici. Ça n'existe pas en Suisse, mais ils appellent ça des junior colleges. C'est pour les gens qui n'ont pas eu leur diplôme, ouais, qui n'ont pas assez de bonnes notes pour aller à l'uni. Ils font 2 ans. Community, c'est un peu pareil, ce type de...
Genre de prépa?
Ouais,
c'est un peu l'école de la dernière chance, hein, c'est un peu le nom de
exactement.
La série. La Last Chance.
Exactement, et là, donc c'est couplé avec le fait que ces types espèrent faire carrière dans le football américain, que souvent ils viennent d'endroits absolument dévastés économiquement, machin. L'énorme majorité sont noirs, et ça suit, il y a 5 saisons maintenant, et ça suit à chaque fois une école différente, enfin il y a 3 écoles différentes sur les 5 saisons, et tu suis le coach, tu suis certains joueurs, leur famille, leur histoire.
Est-ce qu'il y en a qui rentrent pro, qui passent pro?
Pro, faudrait que je regarde ceux des premières saisons, parce que du coup pro, il y a encore l'uni avant les pros, mais il y en a certains qui arrivent à s'en sortir et d'autres malheureusement
pas du
tout.
Ah, c'est pas les mêmes pas qu'on suit
stylé.
Non, parce pas que toute leur carrière sur 5 ans.
Non, parce qu'ils font 2 ans maximum dans les unis.
Ah, et après ils les suivent plus, ils donnent pas de nouvelles.
À la fin de la saison, ils donnent la nouvelle un peu de ce qui s'est passé depuis la fin du tournage, donc t'as un peu.
Mais ils te disent pas le gars que t'as vu il y a 5 ans, maintenant.
Non. Parce qu'ils changent carrément de ville et d'état. Mais sur Internet, moi, je suis assez friand de Where are they now? Et puis, je vais voir. Mais non, j'adore. Ça mélange un peu le côté humain de ces histoires, et puis d'apprendre un peu les États-Unis. C'est rare d'aller filmer dans ces quartiers et puis de raconter les histoires des gens. Et le côté sportif où les mecs, ils se tuent pour être bons au football américain, machin. J'adore ça.
C'est pour ça qu'ils se tuent dans les universités?
C'est exactement pour
ça.
Tous les high school,
c'était une sélection.
High school,
tous les high school. Donc Last Chance U sur Netflix. Et si vous aimez, il y en a d'autres. Il y a QB1 ou Sunderland Till I Die. Ça c'est en foot européen en Angleterre. C'est un peu le même système. J'adore les coulisses du sport. Moi, c'est un truc que je suis très friand.
Chambé. Last Chance
U.
Last Chance U. Ça nous a fait très plaisir, Thomas, de te recevoir.
Moi aussi.
Bon retour en Suisse.
Merci beaucoup.
On se voit bientôt.
Peut-être.
Autour d'un plateau
de fruits de mer.
Bah ouais. De Covid, hors Covid, quoi.
Avec plaisir.
Et si je viens jouer à Lausanne et à Genève, tu feras la première partie avec nous?
Je vais venir tester les trucs risqués.
Avec grand plaisir. Tu parleras de quoi cette fois? Le sida de ton chat? Bisous. Si vous voulez soutenir l'émission d'une manière plutôt cool, en fait, on a créé cette boutique qui s'appelle unebonneboutique.com. Et tout ce que vous achetez nous sert à produire des contenus et à vous les offrir. Et c'est ça le plus important. Parce que notre but, c'est de faire kiffer les gens. Donc allez jeter un œil sur unebonneboutique.com et faites-vous plaisir.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.